What it all about, this, that, I got the bars, we can have a little chit chat. Too thick with it, nah, never been that. Float is dead, you might as well been that. Chuck it in the bin, bye-bye. Bars will hit like a mad drive-by. Man wanna pat on the back, high-five. He gets no ratings, they love to lie. Cobra, yeah, in the middle of his eye. Some man is naked, then they ask why. Not much there that I can co-sign. Do my own thing in my own time. Life is mental, never been gentle. You're like a higher one-time rental. Long time, yeah, it's a business mentality. Jump on the mic, it's a fatality, it's mental. Another day, another dollar. You and yourself like there's no other. Another day, another dollar, just you and yourself, no other. Another day, another dollar, you and yourself like there's no other. Another day, another dollar, just you and yourself, no other. What they know about style and stamina? Get on the mic, I'll bad them up, bad them up. You're like fast food, I'm like caviar. Different stages, a different caliber. Big up the fans from Turkey to Canada. Some man hiding behind the camera. I'm outside in the real world, mad hubba. You don't want it, just give it to me, bad runner. Grew up in a place with banter and violence. We didn't get no love, no guidance. N.I.E. and free when my bits. These men were outside, Eros vibing. Seen so many things go sideways. Seen so many things go left. Trying to make them all right, yeah, you know we live for the zest. Another day, another dollar. You and yourself like there's no other. Another day, another dollar. Just you and yourself, no other. Just another day, another dollar. You and yourself like there's no other. Another day, another dollar. Just you and yourself, no other. Just grind.
And I end up. And I end up. Tell the mingle. And I have a call.
Fly them off like aviation. I don't want no toxic radiation. In my life and my circle, that's reservation. Different path, a different pavement. That path I took was the path that made me. Bars will get you, baby. You don't love yourself, but you love me, baby. Chuck it in the bin, bye-bye. Chuck it in the bin, bye-bye. Ooh. Chuck it in the bin, bye-bye. 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 Ooh. Chuck it in the bin, bye-bye. Like, chuck it in the bin, bye-bye. Another day, another dollar. You and yourself like there's no other. Another day, another dollar, just you and yourself, no other. Just grind. Another day, another dollar, you and yourself like there's no other. Another day, another dollar, just you and yourself, no other.
Alors les amis, j'arrive. Je suis en train de vous mettre les journaux bien dans l'ordre, tout ça. Oui, il y a des choses ce matin. J'allais perdre espoir, trop bien de revue de presse. Salut Eiferji, je connais mes pseudo pourtant. Oui, on s'est couché trop tard hier soir, du coup j'ai un peu décalé la revue de presse ce matin. C'était ambition 9h, résultat 11h. 13. Alors oui, attendez, je suis en train de vous mettre tous les journaux bien. Ok. Il y a des choses. Ouh, il y a des choses ce matin. Ouh, ce qui t'arrange, Framboise ? Cool. Ouh, il y a des choses ce matin. Oh, il fait chaud, je vais enlever le sweat. Ok, les échos, l'équipe, c'est là. Ok. Madame Loïse Boisson, c'est foufou. Ok. Ok, opération striptease pour commencer. Bougez pas. On y va directement, on se lève pas. Hello Samuel, je me demandais maintenant que tu fais plus France Info, est-ce que tu dors plus ? Non ! Parce qu'on a remplacé l'info par le gaming. Non, mais je vis ma meilleure vie. Mais j'aimais bien France Info, l'équipe était géniale aussi. Mais on peut pas tout faire. J'ai commencé à regarder un simple, j'ai vu la notification du live, quel timing, Florian, bravo. Je viens râler avant de reprendre le taf et vous surveiller dans l'ombre, me dit Sarah, ça fait des semaines qu'on attend une réponse pour un appart avec mon mec. Hier on apprend quoi que le type a vendu l'appart. Les gens. Les gens ne nous déçoivent jamais. Les gens ne nous déçoivent jamais. Ça, c'est fou. Sarah, force à toi, ça va le faire. C'est dingue, ça. Ouais. Ah là là là. Tu vas aller chercher la Switch 2? Non. J'ai dormi un petit peu. En fait, ce matin, je me réveille à 6h30, je crois. J'ai lu les journaux. Les enfants se sont réveillés, tout ça, le petit-déj impeccable. Et puis, j'ai senti quand même que les 3 heures de sommeil étaient un peu justes. C'est là où je vois que je vieillis. Hein. Il y a une époque, 3 heures du sommeil, je me levais, je faisais le tour de la cour, je faisais 30 pompes et c'était parti, quoi. Et puis, ben non. Et puis là, mon lit m'a appelé. Viens, reviens te coucher un petit peu, c'est pas grave, si la revue de presse commence à 11h. Voilà. Et donc, je suis allé dormir 1h30, un cycle de sommeil. Et on voit, ça va mieux. Voilà. Mais vraiment, j'étais mollasson, j'aurais été... Puis vu les actus, on a des actus qui sont fortes, voilà, qui vont demander de l'implication. Voilà. Je me suis dit, Sam, il faut que tu sois un minimum en forme. Voilà. Donc voilà. Et la Switch 2, qui est dans l'actu, qui est dans la revue de presse. D'ailleurs, il y a des papiers de partout. Je vais trouver au moins 3 articles de fond sur la Switch 2. On ira chercher après. Il y a déjà des streamers qui streament de la Switch 2 ou pas? Regarde. Il faut que je l'aille chercher. Il faut que je l'installe. Voilà. Je sais même pas quel jeu il y a dessus. Joe, il va stream la Switch 2 cet après-midi? Trop bien. Ok, mon ami Joe Coco va stream cet après-midi la Switch 2. J'avoue que j'ai vu très peu de pubs sur la Switch 2. Ah. La Switch 2 que je ne peux pas avoir day one, je suis deg, me dit Sony sur Internet. Hier, il me semble qu'il y a eu Carole Quinten. À partir de minuit, c'est oui, je pense que ça devait être possible. Je me demande si la Switch 2 fait partie de l'actu. Il y a des articles de partout. MMG. Il y a un article dans Le Monde. Il y a un article dans Les Échos. Il y a un article dans... Où ça encore, j'ai trouvé? Dans Le Figaro. Dans Le Monde. Bien sûr qu'on va reprendre Heavy Rain. Oui, c'est ça. Minuit 1, les ventes dans certains magasins. 7h ce matin, la Fnac de Lyon pour T-Bay. À la Fnac de Lyon. Pardon, pas la Fnac. La Fnac. Je pense que le jeu testé, c'est Mario Kart World. Ok. Ok. Elle est trop chère, je trouve. Les articles en parlent du prix. Les articles en parlent. On est tous d'accord pour dire que 500 balles, une Switch 1.5, c'est de l'arnaque, me dit Lambert le boss. Les articles en parlent. Tu vas assister au GP? Non, mon boubou. Mon boubou. C'est bou. Non, c'est bou. Mon boubou. T'as plein de ou. Non. Non. Je ne sais pas quand c'est. Il y a peu de chances que j'y aille. Je ne me suis pas enseigné de quand c'était. 10 fois plus puissante que l'ancienne. Ok. Me dit quelqu'un de Nintendo dans le chat. Je déconne. C'était quoi ce tournage hier, hein? Hier, on a tourné de... Tiens, faut que j'écrive à Joe. On a tourné... Oh, c'était un gros tournage. De... Ouais, 8h30 à 19h. Gros tournage. Mais c'est un secret. Je ne peux pas vous en dire plus. J'envoie un message à Joe à propos d'autre chose. Ah. Ah ok, anglais. Ah oui, ok, je voulais vous passer une vidéo de fou, mais ce sera pour demain. Vendredi, parfait. Alors, vendredi. Donc demain 17h. Vendredi. Je serai d'être en live d'ailleurs. 17h. Ok. Je vous parlerai de ce fameux live mystérieux du jeudi 12. Vous suivez? Vendredi 17h, donc demain, je vous parlerai, c'est ça hein? C'est demain? De ce fameux live mystérieux du jeudi 12 à 20h, qui est un peu mon plus beau stream de l'année ou un de mes plus beaux streams. Ok. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre, mon Joe? Ah, on me dit. Joe me dit que peut-être que je pourrais le faire pendant la revue de presse de demain. Ah. Pour les Happy Few. Pour vous, donc. Vous auriez une sorte d'exclusivité. Ah, je vous lis. Faudra être là. Celui de Disney était pas mal aussi en début d'année. J'avoue. Mais celui-ci va vous plaire. Bonjour Samuel, bonjour ici. Parle pas trop fort, je suis au taf. Ok, cous. Je vais vendre un rein pour acheter la Switch 2. Bonne opération, Louis. Maguire. Ça fait pas cher du rein quand même. Oui, mais ça dépend de quel état il est aussi. Voilà. Ça va, les amis? Merci de pour ceux qui étaient là hier soir pour cette petite game de Valo sur mon compte secondaire de Smain. Contraction de Smurf et Main. Tu comptes prendre la Switch? Je vais la chercher pour l'autre tout à l'heure. Ouais. Je surveille l'histoire du Covid, Babadit. Pour l'instant, rien à se mettre sous la dent, des petites choses, mais on attend. Oui, avec le mioche sans éducation, là. Oh, on a eu un gamin, un ado mineur, hein, qui vraiment, alors, sur Valo, on a l'habitude, vous avez l'habitude si vous jouez à ce jeu, de temps en temps de tomber sur des joueurs, je dis pas des joueuses parce que c'est, pardon, hein, mais c'est souvent quand même des garçons, pour pas dire exclusivement des garçons, toxiques, violents verbalement, impolis. Et là, on a eu, c'était le 14 juillet, c'était le bouquet final, c'était rien n'allait du début à la fin, quoi. Et on en a ri, parce que bon, on a l'habitude maintenant ici, je dis « on », c'est vous et moi, et on en a ri, et on s'est bien gardé de dire qu'on parlait français, qu'on comprenait toutes ces insultes. Toutes ces insultes. Insultes, violentes, quoi. Et donc, pour voir jusqu'où il allait aller. Mais c'est quoi cette folie de dinguerie de Scad, Ska, Parmal, merci pour les... Non pas un abonnement, non pas deux, non pas trois, non pas quatre... Non pas 5, non pas 6, non pas 7, même pas 8, mais 9, mais 10 abonnements. Merci mon ami, c'est trop gentil. Merci Saint-Farche aussi pour le 17e mois. Merci Arthur Iesio pour le Prime. J'avais pas vu les subs, pardon. Merci JB8931 pour le soutien. Merci Miss Maki, joli, pour le 7e mois. Merci Ophélie, j'avais pas vu ton Prime. Merci Firmuche, je n'avais pas vu non plus ton 8e mois. Merci Sohortil, c'est incroyable. Et merci encore Scad, Ska, pas mal. Et donc... je me suis bien aidé de dire que je parlais français parce que je comprenais toutes ces insultes, voilà. Et sauf qu'à un moment il a dépassé les bornes et à la fin c'est franchement c'est bien parce que ouais, à une autre époque j'aurais ragé, j'aurais peut-être même insulté cette personne. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Scat Sparmal qui dit le plaisir d'offrir et Miss Maki, bon on est d'accord que c'est un joli pseudo, Miss Maki vient d'offrir 10 abonnements à la communauté. Okay. Non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5, même pas 6 ou 7 ou 8. Je ne dis pas 9, je dis 10 abonnements. La matinée, c'est pas la matinée tienne, c'est la matinée est folle. Merci. Et donc, à la fin, je lui dis ces 4 vérités, de façon assez apaisée pour ceux qui étaient là, en lui demandant si il oserait me dire ça IRL face à face. Quoi. Et fanfaron, et de nouveau violent, et les insultes comme s'il en pleuvait. Et puis un de ses mates s'en mêle et puis cite mon pseudo et je dis non, je ne m'appelle pas Escolotola, qui est mon pseudo de mon deuxième compte Valo, mais je m'appelle Samuel Etienne. Énorme blanc. Vous savez que je cache mon identité quand je joue à Valo. Je vois pas l'intérêt de dire que qui je suis et que je suis en live. Énorme blanc et subitement une voix douce, une voix apaisée, une voix où on lui donnerait le bon Dieu sans confession, une voix gentille en disant ah mais on est fan. C'est même pas, c'était, il y avait, moi je pensais que la personne allait continuer à insulter, hein, toute mon ascendance, hein, maman comprise, tout ça. Comme il le faisait depuis le début de la game, voilà, ou disparaître, s'excuser. Et en fait, non, c'était, mais on est fan, mais on adore ce que tu fais. C'était mon meilleur pote. et nous expliquer que c'était un rôle, qu'il n'était pas comme ça IRL, que IRL, je le cite, c'est le plus gentil garçon du monde. Et je lui ai dit, mais c'est à cause de toi, c'est à cause de gens comme toi que l'expérience des jeux en ligne, en fait, est insupportable, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, ouais. Donc ça, ça va partir en clip, hein. Donc, évidemment, j'ai report, parce que franchement, je report très peu, mais c'était quand même très, très violent. Et donc, j'ai report instant, et puis ça va partir en clip. Parce que pour le coup, il y a une leçon à tirer de ça. Hein. Vraiment, c'est... vraiment le côté mais je ne suis pas comme ça, c'est pour rire. Franchement, les insultes n'étaient pas pas drôles, étaient vraiment blessantes, quoi. Et donc j'ai été atterré de voir qu'en fait pour la personne, finalement, c'était normal de se comporter comme ça, c'était normal d'être toxique, violent, insultant, et puis en général c'est sexiste, homophobe, parfois raciste, ça va avec. C'est normal en ligne derrière un pseudo, c'est normal. C'est ok, on n'est pas comme ça en vrai, mais non en fait, parce que vous abîmez l'expérience de jeu qui devrait être une expérience de plaisir de plein de gens. Donc voilà, j'espère que ça le fera réfléchir, j'espère que ça fera réfléchir les gens qui se comportent comme ça. Voilà, du coup ça va partir en clip, ça va partir sur là où il faut. Je vais mettre ça partout, je vais mettre ça sur TikTok, sur Insta, sur Minitel, partout. Merci Sismatrock, merci Tangerine Nightmare pour le 29e mois. Voilà. Enfin, est-ce que les reports servent vraiment à quelque chose? Il y a vraiment des sanctions? Alors moi, quand je reporte, ce que je fais pas souvent un jour ou deux après, j'ai un message de Riot qui s'affiche sur mon écran de vallon en disant merci d'avoir signalé, voilà, nous avons sanctionné la personne, blablabla. Donc j'ai l'impression que ça... Alors c'est comme, je pense que c'est tenter de vider un océan à la petite cuillère, ouais, ils le font, ouais. Au collège, je me suis fait tabasser par 6 mecs et quand on leur a demandé pourquoi, c'était pour rire. Voilà, bah, chou-fleur, c'est les mêmes. Voilà. C'est fou, c'est ouf comme l'anonymat les rend fous. Voilà, là, il y a un problème. Non, mais à qui ? Est-ce que vous, ça vous viendrait à l'idée, parce que vous êtes derrière un pseudo, d'insulter, de rendre toxique et une game, d'insulter les aïeux de la personne En des termes, c'est pas des jurons du quotidien. Ah merde, tu pues la merde. Tu la façon dont tu joues, c'est claquer au sol, va te faire foutre. C'est pas ces trucs qu'on entend même dans la circulation. C'était vraiment des insultes. On est très au-delà en termes d'insultes. C'était vraiment des insultes répétées. C'était le niveau au-dessus, quoi. Et donc c'est pour ça que, en fait, je me suis permis de dire ces quatre vérités à cette personne qui a fini. Par s'excuser platement en disant que ce n'était pas lui, finalement, que c'est pas son vrai lui. Mais c'est fou, quoi. Voilà. Donc on va essayer d'en faire un moment pédagogique. Moi, dès qu'on m'insulte en game, j'arrête de jouer et il pleure. Ouais, c'est vrai que ça peut être une solution, mais s'il y a un mec toxique dans la game, tu vas sanctionner du coup les autres joueurs, quoi. Parce qu'en plus, cette game, on l'a gagnée. Mais comme je dis souvent, je préfère perdre une game avec des mates sympas, sinon normaux, quoi. Plutôt que gagner avec des gens comme ça, quoi. Loupa, et tu en as fait un moment pédagogique. Bravo, car j'aimerais avoir ta sagesse plus tard, car j'aurais pas eu le calme ni les mots que tu as eu. Bah, on a essayé, ouais. Bon! MDR, je viens de voir le live, me dit Broubrou, le changement d'ambiance me tue. Et quand j'ai dit, non, c'est pas Escolotola, c'est Samuel Etienne, mais le changement était instant, quoi. Je pense que le changement est aussi lié au fait qu'il a compris en un quart de seconde qu'en fait, ces insultes, ces graves insultes, avaient été diffusées sur Twitch en live, quoi. C'est quel live, quel timecode, Emma? C'est hier soir, c'est ma deuxième game de Valo. C'est un Français? Ah oui, c'est un Français, ouais. Un jeune Français, ouais. Ah là 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 là. Ouais, aux alentours de minuit. Mais je vais le clipper. On va essayer d'en faire un acte de pédagogie. Tu peux nous montrer? Non, ça, on va mettre ça sur... On va clipper ça. Là, on est sur des choses sérieuses, là. Et des choses, il va falloir que nous gardions la tête froide, puisqu'il va y avoir des sujets compliqués ce matin. Bon, vous, ça va sinon? Merci Fedakin pour le deuxième mois. Merci Sismatruc pour le prime. Je vois pas les seuls ce matin. Ce sera dans le best of. Salut Inverse Minibution. Je me rappelle qu'on avait échangé hier soir. Perso sur Overwatch, me dit Babadit, j'ai désactivé le chat vocal. Je suis là pour me détendre. Je ne veux pas être exposé à ça. La petite grève pour Bro 06, ok. À quel propos? Salut Alexandra, je ne sais pas ce qui s'est passé à Christophe Beaugrand, mais merci. Je me suis brûlé les doigts en prenant le grill de mon four accidentellement. Ça fait très très mal ça. MMG. On revise le bac gentiment. CGT, grève dans toute la France, ok. Christophe, il a subi un homejacking. Oh, ça, c'est ma hantise, ça. Triomphe Scrambler, pas mal. Diesel. Oh, le pauvre. Tabassé à coups de club de golf. Comme Bruno Guillon. Ah, merde. C'est un gentil Christophe Beaugrand, en plus. Comme Bruno, d'ailleurs. Ça c'est affreux, ça c'est moche. Oh là 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 là. Des coups de club de golf sur la tête de l'animateur Christophe Beaugrand et son mari, victime d'un violent homejacking. Christophe, c'est quelqu'un qui prend régulièrement la parole sur les réseaux pour dénoncer l'homophobie dans notre société. Deux cambrioleurs ont fait irruption à leur domicile à Sèvres. Attends, ils ont pas un enfant en plus. Il y a peut-être un enfant à la maison. Dans la nuit mercredi à jeudi, le mari de l'animateur a été frappé à coups de club de golf. Donc c'est le mari de Christophe qui a été frappé. Ghislain. À Sèvres. L'animateur de 48 ans et son mari qui dormaient au premier étage de leur domicile ont été révélés en pleine nuit par du bruit provenant du salon. Ils sont tombés nez à nez avec deux cambrioleurs armés de clubs de golf. Christophe Beaugrand s'est alors précipité dans les étages pour protéger leur fils. Né en 2019, je le savais. Tandis que Ghislain est retourné au premier étage pour appeler la police depuis le balcon. Ah, le Figaro nous précise le type africain, nous précise le Figaro. Je suis pas étonné, le Figaro. Voilà. Je cherche à voir le Parisien, ça n'est pas précisé d'ailleurs. Selon une source policière. On frappait le mari de l'animateur au niveau de la tête à coups de club de golf. Ghislain Beaugrand est tombé du balcon d'une hauteur de 3 mètres avant de se réfugier chez une voisine. C'est intéressant parce que... Alors, je ne suis pas sûr de moi, je peux me tromper, mais vous allez voir que pour moi, le Parisien ne va pas mentionner l'origine supposée des agresseurs. Je me trompe peut-être, hein. Les deux individus. De nos jours, arrêtez la pub. Deux individus, oui. Ah oui, bah non, bah non, le Parisien ne le précise pas. Plusieurs cambriolages dans le passé déjà pour Christophe Beaugrand. Bon, je ne me trompe pas. Voilà. Ok, c'est noté. Le pauvre. Et c'est Christophe. Je vais lui envoyer un petit message après. Oui, MG parle du réseau qui a attaqué des célébrités. Alors on ne sait pas, mais effectivement, des homejacking de célébrités, ça c'est vraiment traumatisant et violent. Hein. Il y en a eu plein ces derniers temps, quoi. Bon, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous fasse un petit sommaire pour vous montrer qu'il y a une actualité de fou ce matin? Est-ce que vous êtes preneur? Oui, Bruno Guillon, ouais. Bruno Guillon, il a vécu une nuit d'enfer comme ça, avec un pistolet braqué sur la tombe de son épouse, avec son fils adolescent enfermé dans une chambre sans que Bruno sache ce qui se passait. Enfin, c'est un enfer. Ouais, sommaire? Vive le tennis féminin. Oh, tu as tellement raison, jugeons deux mots, on va en parler. Ok. petit message de Ted Etienne, un instant en mail. Mon Ted. Je vis un enfer, il n'y a plus de papier toilette au boulot, j'ai mal au ventre, me dit Cador. Oh mon Cador, il n'y a pas des lingettes quelque part? Il n'y a pas des lingettes? T'as pas une collègue qui aurait des lingettes? Ou un mouchoir? Il y a les allergies en ce moment, petit mouchoir en papier? Ça devrait se trouver, non? On est là pour résoudre les problèmes ici, nous. Prendre des feuilles à 4, j'y ai pensé, mais bon, c'est pas très confortable quand même. Voilà, tout le monde donne ce conseil, des feuilles à 4 de l'imprimante. C'est pas foufou, hein. Go bouteille d'eau. Ouais. À l'ancienne. Prends la fiche de paie de ton patron, dit Arthur Rizio. Voilà. Petit peu de lutte sociale. Oh, oh, oh. Inverse minibution. Prends le Figaro. Oh. Pourquoi tant de violence? Sinon, tu sacrifies ton caleçon pour nettoyer, me dit Diesel. Pourquoi tant de violence? Alors, de façon assez poétique et allusive, finalement, Yonéa 90, torche-toi avec ton slip et jette-le après. Cador me dit, j'hésite à sacrifier mes chaussettes. Dans le bureau de ton patron, et tu t'essuies avec les rideaux? Mais le chou-fleur, mais c'est quoi cette lutte des classes revisitée, là, en mode caca, là? Certes, mais que faire du slip ensuite? Je ne pose pas la question, j'ai peur que certains me disent tu l'envoies sur la tête de ton patron, hein? Force Galaxy. La guerre du caca. C'est fou ça. Bon. Alors, de quoi je vais vous parler ce matin? Bon, alors, les amis, il y a des sujets qui sont pas légers. Il y a du sujet léger, il y a du sport, il y a du jeu vidéo. On garde ça pour la fin, mais il y a aussi du pas léger. Je prends Le Monde, l'excellent journal Le Monde. Voilà, et vous allez voir la une. Alors, plusieurs journaux en parlent, mais du coup, j'ai choisi le dossier du Monde qui était le plus complet ce matin sur cet attentat raciste, puisque ce sont les mots qui ont été choisis. Une du Monde, premier titre, vous le voyez. Dans le Var, autopsie d'un attentat raciste. Le meurtre de Hichem Mirawi. Ces derniers jours, j'ai vu les articles là-dessus, j'attendais. Merci Carlito. Un papier de fond là-dessus. Vous me dites si au niveau du son, c'est OK. Hein. Le meurtre de Hichem Mirawi le 31 mai à Puget-sur-Argent est le premier homicide anti-musulman considéré comme un acte terroriste par la justice en France. C'est une première. Acte terroriste, pourquoi? Moi, je ne sais pas, je vais essayer de comprendre. Dans plusieurs vidéos diffusées sur Facebook, avant et après les faits, Christophe B. sommet les Français de se réveiller face aux islamiques. Allez les chercher là où ils sont. Ce soir, on fait un carton. Avait harangué le suspect qui appelait également à voter pour le RN dans ses vidéos. Ce crime provoque une forte inquiétude de la communauté musulmane en France qui dénonce un acharnement des pouvoirs publics à son égard. Mise en cause, le RN tente de prendre ses distances avec Christophe B. et refute tout lien avec son discours xénophobe. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Allons voir. Page 8 et 9, le papier. Voilà. Les obsessions du suspect de l'attentat raciste du Var. Voilà. Parce qu'en fait, tout ça a été documenté. J'espère que le papier ne se penche pas sur la victime. Moi, je vais essayer j'ai vu il y a quelques jours un papier sur la victime qui était coiffeur. Hichem Mirawi, hein, qui venait, je crois, de Tunisie qui s'est installé en France. Voilà. Et on essaiera peut-être de lui rendre hommage à travers un portrait que j'ai acheté. Je crois avoir lu hier ou avant-hier un article dans Le Parisien rendant hommage à cette personne qui ne demandait rien, qui n'avait jamais fait parler de lui, qui est donc ce coiffeur, qui est la victime de cet attentat raciste, puisque la justice parle d'attentat. On parlera de ça ce matin. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous disais que ce matin on a des sujets un petit peu lourds. Ouh ! Les modos, j'ai une pensée émue pour vous ce matin, puisque c'est une question compliquée qui enflamme souvent les débats. Déjà, le Proche-Orient d'une manière générale. Voilà, Sarah dit « Ah bah super, rip la pause déj, force aux modos ». Voilà, vous avez compris. C'est Lacroix qui pose la question « Est-ce qu'on peut parler de génocide à Gaza ?» C'est une question qu'on a souvent évoquée ici. l'utilisation de cette qualification juridique pour dénoncer l'action militaire israélienne à Gaza se banalise dans le discours public, notamment en France, mais reste tabou en Israël. Voilà. Alors, La Croix est un journal de qualité, un journal extrêmement rigoureux. Je trouve intéressant que ce soit La Croix qui pose la question ce matin. Et on va voir les arguments des uns et des autres, puisque j'ai pas compris pourquoi, forcément, modo, Palace Legacy, parce que tu n'es pas un habitué de cette chaîne. Tout simplement parce qu'il y a des sujets ici qui provoquent des débats parfois enflammés, comme celui-ci. Le Proche-Orient, de manière générale, cette question en particulier. Quoi. Et qui doit se farcir la modération de tout ça, les excès des uns et des autres? Les modos. Voilà, forcément, modo. Merci, Wargod, pour le prêt. Donc, on posera cette question, peut-on parler de génocide à Gaza? Bon, déjà avec un présupposé positif sur la qualité du traitement. Voilà. Deuxième sujet. Troisième sujet. Pourquoi je tousse ce matin avec les pollens, ça. Qu'est-ce qu'on a en numéro 3? Ah oui, on restera en Israël. Parce que je suis quelqu'un qui vous explique régulièrement que il ne faut pas considérer le peuple israélien comme quelque chose de monolithique et que tous les Israéliens ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement Netanyahou. Notamment vis-à-vis des Palestiniens. Et on a une interview d'Ehud Olmert, qui je crois est un ancien Premier ministre, chef de gouvernement israélien, on va le vérifier, qui dit que effectivement c'est monstrueux ce que fait le gouvernement israélien, qui parle de crimes de guerre de l'armée israélienne. C'est dans Le Monde à nouveau, c'est page 25, on va aller voir ça. Ici. Ehud Olmert, c'est ça, l'ancien Premier ministre israélien, estime que le gouvernement de Netanyahou mène une guerre contraire aux intérêts de l'État hébreu même. Ces dirigeants sont de véritables ennemis intérieurs. Ces dirigeants sont de véritables ennemis intérieurs. Juge l'homme politique. Ce sont des mots qui sont assez forts. On ira lire cette interview d'Ehud Olmert, voilà, ancien Premier ministre israélien dans Le Monde. Qu'est-ce que je vous lirai ce matin aussi en France. On parlera du budget. Il y a un énorme déficit des finances publiques en France. Il y a 40 milliards d'économies à trouver dans le prochain budget, nous explique le gouvernement de François Bayrou. Où ces milliards d'économies vont être trouvés, ça on ne sait pas trop. Voilà. Il y a une piste qui est, je crois, une des échos ce matin, c'est ce qu'on appelle l'année blanche. Ouais. La piste de l'année blanche. Un gel des dépenses publiques. En fait, l'année blanche, c'est ça. C'est qu'on n'augmente pas les dépenses publiques. Hein. Il n'y a pas d'indexation sur l'inflation. Il n'y a rien, quoi. Un gel des dépenses publiques pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros l'an prochain. Vous voyez qu'on n'est pas aux 40 déjà. La Pologne, on en a déjà parlé, Melouch. Hier, tu l'as en replay. Mais cette mesure évoquée par les élus du bloc central s'annonce explosive sur le plan politique. Syndicats et patronats entrent dans le dur des négociations sur la réforme des retraites. Donc on verra, voilà, ce qu'on appelle une année blanche, quoi. 40 milliards d'euros à trouver. Pour amener le déficit à 4,6% du PIB. À une époque, la règle européenne, c'était pas de dépasser 3%, quoi. Voilà, on lira ça. Un petit peu d'éco, un petit peu de finance, un petit peu d'impôts. Plane aussi la menace que les impôts augmentent en France. Ça, je vais vite, hein, c'est pour le sommaire. Cinquième actu. Ah oui, bon, ça me hype pas trop, en fait. Mais bon, je me suis dit peut-être que ça vous intéressait, vous. C'est la une du Parisien. Alors, s'ils l'ont mis en une, c'est que c'est important, je sais pas trop. Chaîne TNT, c'est la nouvelle numérotation. Tout savoir sur la nouvelle numérotation. Cette nuit, une dizaine de chaînes vont changer de canal sur la TNT et une nouvelle, T18, va apparaître. Il y a une chaîne du groupe Ouest France qui va apparaître aussi, mais c'est en septembre prochain. Voilà, ce qu'il faut savoir avant de zapper. Bon, voilà, vous me direz si ça vous intéresse. Le nouveau Big Bang de la télécommande. Et la 4 sera quoi? Bah, je crois que ce sera France 4. Je crois. Ouais. Dans la nuit de jeudi à vendredi, donc c'est quand? C'est la nuit prochaine. La télévision connaîtra un bouleversement, une dizaine de chaînes vont changer le canal de diffusion. Un décryptage de ce chamboule-tout. Qui va où? Pourquoi un tel changement? Y aura-t-il des coupures? À quoi s'attendre pour T18 et Novo 19? Ce sont les deux nouvelles chaînes. Tu vas pas parler de Roland-Garros? Bien sûr, chat de patate, qu'on va parler de Roland-Garros, mon chouchou, voilà. Bon, ou continuer à regarder Canal+, ou voir les programmes jeunesse, quels sont les enjeux. CC me dit, ça diffuse encore la télé? À peine, à peine. À peine. Il reste une émission qui est un peu regardable. Qui est pas un peu regardable, qui doit être regardée, qui est une émission de service public, qui est une émission d'intérêt général, qui est un monument. Non. Animé par un BG en plus. À l'esprit vif et retors, au regard brillant, au poil soyeux comme celui d'un guépard. C'est question pour un champion, bien sûr. Non, c'est pas Drag Race France. C'est très bien aussi, mais... c'est ma mamie m'a parlé de slam, effectivement. Mais pas du tout, pas du tout. Ah. Galewis demande s'il y a une sponsor Coca. Exactement, Galewis. Très bonne question. Tu ne le savais pas, mais tu es soutenu par Coca-Cola. Tu vas recevoir une palette de 100 000 canettes de Coca-Cola. 50 000 normales et zéro chez toi. Galewis 34. Dans une heure. Si ça sonne, n'hésite pas à ouvrir. C'est pour toi. C'est la palette. Question pour un champion, les gars. 18h10 tous les jours. Du lundi au dimanche. Enfin. Donc, on parlera de ça. On approche du tennis, bien sûr, mais... attendez, j'ai une grosse page de vidéo. J'ai une grosse page vidéo. Silent Cheetah, désolé, un peu hors sujet, mais on a les chiffres d'audience depuis l'arrivée de Féro. Sur qui veut prendre sa place, c'est OK. Alors ce matin, on parle du génocide, on parle du Proche-Orient, on parle du racisme, on parle des impôts. Donc oui, c'est un peu hors sujet, effectivement. Je te confirme. Alors, donc, oui, grosse actu jeux vidéo. Il y a des articles sur la Switch de partout. Mais d'abord, il y a ce procès Ubisoft qui est en cours. Moi, j'ai beaucoup lu des papiers il y a quelques mois avant le procès, mais le procès, il a lieu là. Et certains se sont dit, mais peut-être qu'il veut plus, qu'il veut pas nous en parler volontairement. Et non, j'oubliais pas, j'attendais le bon article. J'ai trouvé page 10 dans l'Humanité ce matin. Voilà. Ce procès Ubisoft. Ce procès de gens qui ne sont plus à Ubisoft aujourd'hui. Merci Récolodis. Bien sûr qu'il y aura du Libé, bien sûr mon ami. Allez. L'intolérable culture Ubisoft. Bon, si je dis pas de bêtises, ce sont des gens qui ne sont plus à Ubisoft aujourd'hui. Mais c'était des dingues. Après le témoignage de plusieurs victimes, ce sont des anciens cadres du géant français du jeu vidéo, poursuivis pour harcèlement moral, sexuel et tentative d'agression sexuelle, qui ont été longuement interrogés par les juges. Tous payent un jour, dit Diesel. C'était des fadas, les gars, c'était des fadas. Les témoignages sont hallucinants. Moi, je lis les papiers depuis quelques jours, c'est fou. Hein. J'ai failli travailler pour eux, heureusement, ça s'est pas fait. Au final, me dit Casse-clap. Voilà. Donc, on lira cette double page dans l'UMA sur ce procès Ubisoft. Ce qui nous emmène, jeux vidéo toujours, à la Switch 2. Alors, les articles, il y en a partout. Page 7 dans le Figaro. Qu'est-ce que ça dit? Non, c'est pas page 7, c'est page 31. Sans défendre Ubisoft, c'est pas que chez eux ce genre de dinguerie, malheureusement. Alors, Andy Cajoy, merci à toi. C'est pour ça qu'il faut en parler, d'ailleurs. Parce qu'il faut qu'en fait, que les gens comprennent que ça n'est pas possible, ça, dans le monde de l'entreprise, quoi. Avec lancement de sa console Switch 2, Nintendo joue gros. Normalement, cette petite console, je devrais l'avoir chez moi cet après-midi. Je vais la chercher tout à l'heure. Le groupe rêve de réitérer le succès du premier modèle. Ça parle beaucoup du prix quand même. Hein. Qui fait sa fortune depuis 2017. Le prix polémique, le Figaro en parle. L'ombre des droits de douane de Trump assombrisse le tableau. Article dans le Figaro, mais il y en a de partout. Il y en a aussi dans Le Monde. Le Monde ! Mesdames et messieurs, page 8, je crois. Non, page 15. Page 15. Avec la Switch 2, Nintendo joue gros. Voilà. Le géant japonais du jeu vidéo espère écouler 15 millions d'unités. C'est énorme. De sa nouvelle console d'ici à mars 2026. On lira ce papier. Et également, ça n'est pas tout. Un autre article. Sur les jeux vidéo, sur les prix, je crois. Oui. Attendez. Attendez, dans les échos aussi, j'ai un papier. On ne lira peut-être pas tous du début à la fin, mais dans les échos, j'ai encore un article sur la Switch 2, page 24. C'est intéressant, on voit vraiment quelle est la bonne nouvelle dans tout ça. On voit vraiment que la presse généraliste classique s'intéresse de plus en plus à l'univers du jeu vidéo. Quoi. Voilà. Page 24. Malgré la menace Trump, Nintendo prépare un démarrage explosif pour sa Switch 2. Voilà. Ok, histoire des droits de douane américains. Et puis une histoire sur un article sur les prix aussi. C'est dans les Échos toujours. C'est page 10. Non, c'est pas. Oui, c'est page 10. Je crois que c'est 10. Ouais, la hausse des prix, regardez, c'est pas intéressant. Matière inflammable dans le jeu vidéo. Ces dernières semaines, plusieurs industriels ont annoncé des hausses de prix. Des hausses de prix. Des hausses de prix. Mais Samuel. Mais Samuel. Mais Samuel. Mais c'est intolérable. Mais c'est insupportable. Mais. Des hausses de prix substantielles concernant leurs consoles ou leurs jeux vidéo. Des annonces qui laissent songeur de nombreux observateurs alors que l'industrie fait grise mine. Voilà. Hein, tout le monde dans le chat, on me parle du prix des jeux vidéo, on dit ça ne va pas. Quoi. Eh bien voilà, il y a un article de Nicolas Richaud voilà, sur ce sujet en disant effectivement ça... C'est peut-être un peu exagéré. Quoi. Mais ça explique aussi pourquoi. C'est téléphone qui chantait un truc. Argent trop cher, argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix, argent trop cher. C'est excellent ça.
Ne visitez pas un lieu.
C'est incroyable ça. Argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix, pas de frais, argent. Je vous la mets. Ça c'est des trucs de jeunes ça, des trucs là. Voilà, c'était ça. Il y a eu un rock français, il y a eu quelque chose. Il y avait qui à l'époque aussi ? Il y avait Taxi Girl, dans un autre genre. Voilà. Mais téléphone, c'était quelque chose. Il faut comprendre à un moment que la France a eu un vrai groupe de rock français qui sonnait, qui avait des textes français, avec une vraie énergie rock qui était incroyable. Avec, donc, il y avait Bertignac, il y avait Corinne Massiero, je crois, la bassiste qu'on a vue à l'instant, qui a quitté le groupe à un moment. Il y avait Jean-Louis Aubert, bien sûr. C'était incroyable. Oui, il y avait Trust dans un modèle un peu plus énervé, un peu plus métal aussi. Ouais. Indochine. Alors, j'adore Indochine. Rock. J'aime Indochine, mais je ne le classerai pas dans cet univers-là. Les Bérus. Les Bérus, bien sûr. Plutôt, je dirais pop. Voilà. Ah, Corinne Marieno. Ah, Massiero, c'est Capitaine Marlowe, je me suis trompé. C'est Corinne Marieno, pas Massiero. Ah oui, exactement. Richard Kolinka à la batterie. Mon premier groupe de rock. Mon premier concert. C'était peut-être en 1981. Non, je devais avoir 12 ans, donc c'était plutôt en 83, premier concert de rock avec mon ami Nicolas Raffalen, je crois. C'était mon pote au collège, au lycée. À la salle des sports Omnisports de Rennes. Tournée Un autre monde. C'est incroyable. C'était incroyable. Non, Raffalen, c'est breton. Nicolas Raffalen. C'est un chouette gars. Pardon, petite pause nostalgie. Donc, argent trop cher, oui, voilà. Et ensuite, alors ensuite c'est pas tout, parce qu'on parle de jeux vidéo ce matin, on parle aussi de, je crois qu'on va arriver sur le tennis doucement, le prix des jeux vidéo c'est numéro 10, donc numéro 11, mesdames et messieurs, et tout à fait c'est la une de l'équipe. Richard Kolinka, dont la mère est une survivante d'Auschwitz, aujourd'hui âgée de 100 ans, c'est vrai Cyril, tu as raison. Il est devenu quoi ce Nicolas ? Je ne sais pas Tarkan, mais je pense souvent à lui. C'est bête. Vous savez, c'est ce genre d'amitié collège-lycée, et après vous perdez de vue, vous changez de classe, vous avez de nouveaux amis. Nicolas, en fait, je crois que c'est marrant parce qu'il était, je crois qu'il était assez geek à une époque où les ordinateurs c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et je crois qu'il a fait des études scientifiques, garçon brillant. Mais après on s'est perdu de vue. Voilà. Moi je traînais un peu avec les mecs qui avaient des motos, tu vois. Les mecs qui avaient des motos, qui faisaient un peu des bêtises, des 400 coups, tout ça. Nicolas, c'était plutôt un garçon sérieux, pondéré, et je l'ai perdu de vue. Et je pense souvent à lui. Je suis curieux de savoir ce qu'il est devenu, parce que c'était une belle personne. Ouais. Ouais. En plus, je me rappelle de son nom. Tiens, je vais le googliser. Bon, je pense que je l'ai déjà fait, mais j'ai rien dû trouver. En plus, j'ai un patronyme qui est assez original. Je crois que c'est Raphaëlle. Breton. Ah, mais j'ai. Si, si. Est-ce que ce serait lui? Ah, ça pourrait être lui. Une petite piste via une société là. Il n'y a pas beaucoup d'occurrences par contre. Hein. Une piste d'une société mais qui n'existe plus. Aïe. Ouais. Ouais, ça va être compliqué. Je pense que j'ai déjà dû chercher, j'ai rien trouvé. J'étais un peu à blouson noir, moi. J'étais un petit peu à blouson noir. Ouais. Et donc on parlera de tennis et là c'est la régalade. Hein. Voilà. C'est inouï. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de sport ni de tennis, mais je sais quand même que avoir une wild card, une invitation à Roland-Garros et passer des tours de qualification, c'est quand même assez rare. Arriver en quart, c'est fou. Moi, ça m'a totalement épais. Je me suis dit, mais qui est cette Loïse Boisson? Et là, elle vient se qualifier pour les demi. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est dans l'histoire du tennis féminin, dans l'histoire de Roland-Garros, combien de joueuses, de joueurs bénéficiant d'une invitation, d'une wild card, se sont qualifiés pour les demi-finales. J'espère que l'équipe va nous le dire. C'est une question que... On te maquille à mort, Cubinito. Donc là, on parle de tennis. Et Cubinito, qui doit avoir un gros lag au niveau de son ordinateur de, après une semaine ou deux, dit on te maquille à mort. Tu nous parles de quoi, Cubinito? Tu nous parles de quoi, bordel? C'est la question qui me taraude. Moi, je me dis, mais d'où venez-vous? Quels sont vos réseaux, les gars? Hein? C'est la troisième fois que ça arrive, MMG, merci. Henri Lecomte l'a fait. Que veut Cubinito? De quel maquillage il parle, quoi? Cubinito, on veut en savoir plus. Tu as piqué notre curiosité. Cubinito, on t'attend. Cette revue de presse est suspendue à tes lèvres. Donc Loïse Boisson, incroyable. À tout à l'heure, si Cubinito nous répond, vous me dites. Hein. Je t'aime Samuel, dit Cubinito. Ok. Cubinito qui va se coucher, qui a fait la fête toute la nuit, c'est compliqué. Voilà. Voilà. Force, frère. Ou sœur. En 2-7, la Française, détentrice d'une wild card, donc d'une invitation, s'est offert une place en demi-finale pour son premier grand chelem. L'américaine Coco Gauff l'attend cet après-midi. Ce serait fou. Imaginez un instant, fermez les yeux. Imaginez qu'elle bat Coco Gauff. Je pense qu'elle peut le faire. Finale de Roland-Garros. Boisson à volonté. C'est quoi ce titre? Oh, Loïse Boisson. Boisson à volonté.
Oh, 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 oh. Boisson à volonté.
Bon. On ne va pas juger. Ah, c'est une science, le titre. Hein. Oh non, pas ça. Pas vous, l'équipe. Pas après tout ce que vous avez fait. Non. Non, mais voilà. C'est pas grave. Voilà. C'est quand même c'est quand même... Ah oui, ça, c'est la joueuse qui a pété un câble devant Boisson. Comment elle s'appelle? La russe Mira Andreeva a été... Ah, elle a pété un câble. Elle n'en pouvait plus. C'est une blague que Mathieu Larto a fait pendant le match. Ok. Alors Mathieu, il aime aussi les petites vannes comme ça. Mais Mathieu, c'est mon pote, donc Mathieu, il peut. C'est autorisé, ça. Alors des articles sur Boisson, il y en a plein. Hein. C'est la une du Parisien, vous l'avez vu tout à l'heure, d'ailleurs. Allez, hop. L'exploit inouï de Loïse Boisson, page 16-17. Loïse Boisson, le nouveau rêve bleu. C'est beau, ça. Simple et direct, un talent rare, gestion mentale monstrueuse, sous le charme de Loïs. Ouais. Incroyable. Certains l'ont vu jouer un petit peu. Merci beaucoup, Enyot Taf, pour le message. Quelqu'un a vu? Oui, alors, vous aimez 7-7, c'est un beau tennis? Vous appréciez? Ça joue technique, précis, c'est beau. Coup droit d'enfer. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu quelques points. Ouais. Alors une petite faiblesse au niveau du revers, du coup elle surjoue son coup droit, mais c'est un coup droit de fou. Mais du coup elle s'expose aussi un petit peu. Ça peut l'obliger à faire un petit peu à devoir courir plus de, à couvrir plus de terrain. Muscle impressionnant, coup droit à la Nadal, très beau tennis, le match Andreeva incroyable, le premier set sûrement le plus fort du tournoi, très technique, très précise, match très beau hier, faiblesse en revers, voilà, tête cède et dans ses déplacements, mais sinon ça envoie comme un boisson dans l'eau. Je valide inverse Minibution. Impressionné par la puissance qu'elle met sur ses revers, ses premiers services, me dit MMG. Alors son revers est plutôt bien passé hier, effectivement. Elle ne lâche jamais rien, même si elle est outsider. Sa combativité, me dit Sushito, est folle. Très forte sur terre battue, très athlétique sur terre battue, elle est très très forte. Tu connais Nadal, effectivement. Tu te connais un peu en tennis? Pas trop, non. Je lui connais en tennis ce que je lis dans les journaux, c'est-à-dire pas grand-chose. Et je crois qu'on s'arrêtera avec Loïs Boisson tout à l'heure. Ah non, non! Vous savez que moi, j'aime bien Djoko, moi. Moi, j'aime bien Djoko. Donc, je me félicite que l'ami Djokovic est toujours là. Moi, je le disais au début du... Je ne sais plus avec qui j'en parlais. Peut-être ici. Je disais Djokovic, il est là. Le dernier grand de ces années dominées par Federer, par Nadal et Djoko, il est toujours là. Voilà. Et il est là et il est bien là. Hein. Il me dit, oui, il y a beaucoup trop de concurrents. Djoko, ton Djoko, il ne veut pas aller très loin. Eh bien, il est là. Une demi-finale qui arrive face à Sinner. Le Serbe, 38 ans, a sorti le grand jeu pour essorer Alexander Zverev, s'il vous plaît. La demi-finale face à Sinner s'annonce de toute beauté. Voilà. Djoko aka Djokoko. Nous n'avons jamais vu Djoko et Djokoko dans la même pièce. Mon Djokoko, celui avec qui je travaille, qui s'absente parfois pour des déplacements à l'étranger, en fait, c'est peut-être pour des tournois, des grands chelems. On ne le sait pas. Hein, on ne le sait pas. Voilà. Un Djoko épatant. Comme Djokoko est épatant, d'ailleurs. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Deux gars épatants. Tiens donc. Qui s'absente deux semaines en mai depuis 20 ans. Nadal manque tellement, ceci dit. Nawal, Paris, tu as tellement raison. Un pronostic pour ce Roland-Garros, Sam, homme et femme. El Sushito, je dirais que chez les hommes, il n'est pas impossible que ce soit un homme qui s'impose. Et chez les femmes, je pense que le tableau est ouvert pour qu'une femme s'impose. Voilà, je ne me risque que rarement des pronostics, mais à un moment, il faut savoir aussi prendre des risques, affronter sa chance. Voilà. Regardez... le présent et l'avenir, les yeux dans les yeux. Voilà. Moi, c'est mon call. L'audace de cet homme. Eh oui, parfois, il en faut. On sent que tu ne t'y connais pas trop. LOL, me dit Tsetsed Tsubasa, qui est un habitué de cette chaîne, ce qui n'empêchera pas de te dire ta gueule, Tsetsed. Comme tu es un ami, tu comprendras. Oh, Tsetsed, bordel! Dingue ça. Je viens d'arriver, est-ce que tu peux faire un petit résumé de l'actu s'il te plaît? Non, Nonos, ça vient de passer, c'était le sommaire, tu l'as en replay. Maintenant on va développer tout ça. Salut David Honner. Sam, tu fais quoi comme sport? J'ai fait beaucoup de pole dance à une époque, champion départemental à Créteil dans mes jeunes années, mais je manque de temps aujourd'hui. Un jour je vous ferai une petite démo là. J'ai gardé encore, mes petits, j'avais des petits shorts en tergal bleu électrique là, des petits tops, comment vous dites à l'époque, ça plaît, on disait pas comme ça, là. Nous on disait brassière, vous dites top crop, je sais pas quoi, là, top, comment vous dites, comment on dit crop top, crop, je sais plus, croque d'Inde, je sais pas quoi, petite brassière à l'époque là, un jour je vous montrerai ça, crop top, ouais. Mais bon à l'époque c'était plutôt brassière nous. T'as encore la barre à ton âge? Oh bah elle est là, elle est pas très loin, elle est pas très loin. Elle est pas là, voilà. Ah attends, hop, laissez-moi regarder un truc. Mais tu n'as pas été modéré par les modos hors taxe. Non, c'est des trucs automatiques là, je crois. Non, c'est de la modération automatique, je sais pas quoi. T'inquiète, t'inquiète. J'envoie un message à mon amoureuse. Ah non, non, ce soir. Ah non. T'as fini Valo à quelle heure hier? Je sais pas, un petit 2h30, je pense. Après, faut s'endormir, c'est ça le problème. Oui, automode, voilà, automode, automode. Quelle est ta source favorite d'information? Le chat, Bobby Tells. Le chat. Et les journaux. Oui, tu as été. Voilà, tu as été automoded pour un ta gueule. Voilà. Voilà, en fait, c'était un mot. C'est un mot bloqué. C'est un mot bloqué. Source sur le chat. Le chat, pas le chat, ce chat, le chat de cette communauté, c'est une source de qualité. Tous les chats ne se valent pas, on ne va pas citer d'autres communautés, d'autres chaînes. Mais tous les chats ne se valent pas. Ça, c'est un chat. Quel meilleur chat que celui-ci? Non, elle est atroce cette source, me dit Hugos. Mais toi, c'est ton premier message, c'est marqué là. Twitch me dit c'est ton premier message sur cette chaîne. C'est parce que tu ne connais pas cette communauté, tu vois. Ton ancienneté le montre d'ailleurs. Tu ne connais pas cette communauté. Cette communauté est inouïe de qualité, d'exigence, d'intelligence. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Voilà, Boubou me précise même follower il y a 15 minutes. Voilà mon ami. Sinon, on peut parler de Cyril Ferraud. Désolé, ça va être mon running gag ce matin, me dit Salon Chita. Alors, je pense qu'on va plutôt parler du Proche-Orient. Hein, moi, je ne lâche pas l'affaire, ça me semble un peu plus important. Hein, Adrien, ne pas être abonné ne veut pas dire qu'on ne regarde pas. Donc, je crois que tu confonds abonné et follower, Adrien. Ce qui nous montre que, non, Adrien, que toi, je disais de la personne ne connaissait pas trop la chaîne, et toi, tu ne connais pas Twitch, Adrien. Hop, 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 hop. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est comme les articles, tu sais, des boomers en disant « Oui, Samuel Etienne a 1 million d'abonnés sur Twitch. » Ah bah dis donc, attends, 1 million d'abonnés sur Twitch, on va dire à 4-5 balles le sub, il prend 3 euros là-dessus, bah ça, vite fait, ça fait 1 million d'euros, non, ça fait 3 millions d'euros tous les mois. Bon, alors après, t'enlèves l'IS, t'enlèves les charges, t'enlèves tout ça, bon, il va t'en rester un par mois. Ça fait 12 millions d'euros par an. Ah oui. Donc ça, c'est mes articles. Non, follower. Merci aux voyageurs pour le 41e mois d'abonnement. Ce serait incroyable. L'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Parce qu'en fait, un créateur de contenu, un streamer, l'argent que vous lui donnez, merci à vous d'ailleurs, via les subs par exemple, ça ne va pas sur ton compte en banque, ça va sur le compte en banque de ta société. Tu ne peux pas mettre ça sur ton compte en banque, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est de l'abus de bien social, donc ça va sur ta société. Et après, si tu veux te verser cet argent dans ta poche, dans ta petite poche à toi, sous forme de salaire ou de dividende par exemple, eh bien tu vas payer de l'impôt sur les sociétés, qui est l'impôt sur ton... Je ne suis pas comptable, mais... sur en gros ce qui est en positif dans ta trésor, quoi, ce que tu as gagné. Après, tu vas payer différentes taxes et charges selon la manière dont tu vas te payer, charges sociales, etc. Voilà. Et en gros, considérez que quand vous me donnez 3 euros, à peu près, il doit rester 1 euro. Quoi. Ce qui est OK, hein, ce qui est fair d'ailleurs. Sur un sub, à peu près. On avait remarqué que tu étais très focus sur la montre Richard Mille. Ah bah je m'en paye une tous les mois, moi. Bon, on y va? C'est déjà beaucoup, 1 euro, vous vous rendez compte? On vit en collectivité, donc voilà. La collectivité, elle a des frais, il faut payer pour tout ça. Moi, ça me va, hein. Moi, ça me va. Mais j'aimerais bien avoir 1 million d'abonnés, par contre. Je suis très content d'avoir 1 million de followers, mais j'aimerais bien avoir 1 million d'abonnés. Allez. Redevenons sérieux. Allons voir le monde, je crois. Le frigo. Ah non, on n'a pas commencé le frigo. On vient de finir le sommaire. C'est parti.
bougez pas, c'est normal. Hop. Je vous fais une capture d'écran parce que parfois le monde nous met un espèce d'anti-cheat qui est un peu bizarre. Hop, hop. Je vous mets de côté l'article qui est donc page en une ce matin dans le Var, autopsie d'un attentat raciste. Et ah voilà, bah, il est revenu. Bon d'accord. Okay. Ok, très bien, c'est parti. Je voulais vous parler ce matin du meurtre d'un monsieur qui s'appelle Hichem Mirawi, le 31 mai, à Puget-sur-Argent, peut-être sur Argence, peut-être, on prononce peut-être le S. Premier homicide anti-musulman en France, considéré comme un acte terroriste. C'est ça la nouveauté. Merci Sterkane. Merci Taïda Dono. Par la justice. C'est pas le premier acte anti-musulman, mais c'est le premier acte anti-musulman considéré comme un acte terroriste en France. Pensez à ses proches, MMG, oui, je m'associe à toi. Après plusieurs vidéos diffusées sur Facebook, avant et après les faits, Christophe B., donc c'est le criminel, sommait les Français de se réveiller face aux islamiques. Merci pour les F. Allez les chercher là où ils sont, ce soir on fait un carton, avait harangué le suspect, qui appelait également à voter pour le RN dans ses vidéos. Ce crime provoque une forte inquiétude pour la communauté musulmane, tu m'étonnes, qui dénonce un acharnement des pouvoirs publics à son égard. Mise en cause, le RN tente de prendre cette distance. Tu m'étonnes ! Avec Christophe B., il réfute tout lien avec son discours xénophobe. On sait bien sûr que le RN n'a rien à voir avec le développement des discours xénophobes en France, tout le monde sait ça. Toute petite dose de second degré pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, parce qu'après, les gens qui vont partir sur les réseaux disent « Oui, Samuel dit que le RN n'est pour rien dans le développement des discours homophobes en France, je l'ai dit. » C'était du second degré, je le dis parce que parfois les gens ils ont du mal. Les obsessions du suspect de l'attentat raciste dans le Var. Dans des vidéos à caractère xénophobe diffusées sur Facebook, déjà Facebook, avant et après le meurtre de Hichem Mirawi, samedi, donc à Puget-sur-Argence, on dit le S, vous me l'avez dit, Christophe B. exhortait les Français à se réveiller face aux islamiques et aux sans-papiers. Le meurtre, on va prendre le temps sur ce sujet. Le meurtre samedi 31 mai, en fin de soirée, d'un Tunisien de 45 ans, tué par balle. À Puget-sur-Argent, c'était le voisin, en fait, du monsieur. Et le premier homicide raciste et anti-musulman traité comme un acte terroriste par la justice depuis la création du parquet national antiterroriste en 2019, le PNAT. Cette saisine, merci Boubou, cette saisine se fonde en grande partie sur plusieurs vidéos que le suspect Christophe B., 53 ans, a diffusées sur son compte Facebook juste avant et peu de temps après son passage à l'acte. Le Monde a pu consulter en intégralité 5 de ces vidéos. Non, Sam, le S ne se prononce pas sur Argence. Alors battez-vous dans le chat. Vous avez été plusieurs à m'affirmer le contraire dans un instant. Vous vous mettez d'accord sur la prononciation de la localité. Et quand la bataille est finie, quand la bagarre est finie, vous me dites votre conclusion. Hein, je vous laisse faire. Moi, j'ai un article à vous lire. Le Monde a pu consulter en intégralité 5 de ces vidéos. On y entend l'obsession raciste de leur auteur pour ceux qu'il appelle les bicots, les sans-papiers, mais aussi sa haine contre les gauchos. La colère contre l'État, MMG, le S se prononce, je suis originaire du coin, fin de débat, fin de la bagarre. Vivant à côté de Puget-sur-Argence, on dit le S, me dit Broubrou, je crois que la bataille est terminée. C'est fou comment des gens affirment dans le chat parfois des choses catégoriquement et en fait ne savent pas. J'y ai vécu, me dit Sarah, il y a le S, MDR. Oh, putain, c'est plus des balles perdues, c'est des headshots là. Voilà. Donc haine pour les bicots, les sans-papiers, les gauchos contre l'État pas capable de protéger, ainsi que sa proximité idéologique avec l'extrême droite et le Rassemblement National, tiens, c'est étonnant, pour lequel il invite les Français à voter. Arrête d'insister, tu t'es pris 4 headshots sur la prononciation. Dans la première vidéo, qui semble avoir été tournée à son domicile avant son passage à l'acte, Christophe B. annonce son projet. Bon les copains, il est l'heure, aujourd'hui, comment cet amateur de tir sportif, en montrant ses armes, ce soir, on dit stop, stop aux islamiques de mes deux, putain de français de mes deux, ok. Là, réveillez-vous, sortez vos couilles, oh là là. Allez les chercher là où ils sont, vous allez voir ce soir on fait un carton, ce soir on va s'amuser, ce soir je vais mourir, je vais crever, ok là. Oui, le level, comme tu dis, Sarah. Moi, il n'y a pas d'allégeance à Al-Qaïda ou quoi que ce soit, moi c'est l'inverse, c'est l'allégeance au bleu, blanc, rouge. Ok. Cet appel à aller les chercher là où ils sont, est l'un des éléments qui ont convaincu le PNAT, le parquet national antiterroriste, d'ouvrir lundi donc une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste commis en raison de la race ou de la religion. En cherchant à conférer à ce crime une dimension plus large que son action individuelle, en incitant d'autres individus à s'en inspirer, le suspect a en effet manifesté sa volonté de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Article 421.1 du Code pénal définissant les actes terroristes. T'es pas aussi impliqué quand ça tue des blancs, nous dit Brodini 93. Voilà. Si jamais tu te demandais pourquoi tu étais considéré comme un utilisateur suspect par les modérateurs, ben tu viens de nous le rappeler. Merci à toi. C'était un ami à toi, le monsieur, là ? Je rappelle que tout propos raciste ici, sexiste, homophobe, discriminant pour quelque catégorie de la population que ce soit, sera immédiatement supprimé et la personne bannie définitivement de cette communauté. Je le rappelle. Les discours d'extrême droite appelant à la violence comme cette vidéo sont catégorisés par la justice terroriste comme venant de la menace d'ultra-droite, qui se distingue de l'extrême droite légaliste en ce qu'elle refuse le jeu démocratique. Souvent on me pose la question, mais c'est quoi l'ultra-droite ? Alors, d'après les chercheurs, les sociologues, et puis parfois les policiers aussi, l'ultra-droite qui se distingue de l'extrême-droite légaliste qui joue le jeu des élections, c'est le fait qu'elle refuse le jeu démocratique. Et on appelle donc à la violence pour arriver à ses fins. C'est ça la différence entre l'extrême-droite et l'ultra-droite. Et c'est sur ce point que le suspect du meurtre de Puget-sur-Argence brouille les catégories habituelles. Parce que ses propos ne se bornent pas à exhorter à la violence. Ils revêtent une portée plus strictement politique au sens du jeu démocratique puisqu'il incite aussi à voter pour le RN. Voilà. Donc il est ultra-droite et il est extrême-droite aussi, les deux. Voilà. Aux élections législatives de 2024, le RN l'avait d'ailleurs emporté dans sa circonscription. Dans une autre vidéo, probablement tournée après son crime cette fois dans sa voiture, à bord de laquelle il a été arrêté quelques heures après les faits, le suspect a investi ainsi le terrain électoral. « Je sais pas quoi vous dire, je suis fatigué, l'État n'est pas capable de nous protéger, de les renvoyer chez eux. Jean-Marie Le Pen, on suppose, nous l'avait dit qu'on serait dans la merde. On est dans la merde. Alors, je ne suis pas un pro-RN. Ben si, quand même, un petit peu, non. Mais voilà, si Marine ou Jordan, bon, ça donne les prénoms quand même, hein, passe pas, les mecs, réveillez-vous parce que vous allez vous faire, pardon pour la prose, hein, enculer. J'arrête de salir mon âme. Oh ben, elle est déjà bien, bien abîmée quand même. Hein. Je ne sais pas ce que je viens de faire. J'ai pété un plomb envers des voisins de merde. Tu viens de tuer un innocent, en fait. Si tu sais pas ce que tu viens de faire, nous on va te le dire. Hein. C'est très simple. Hein. Ta folie raciste a fait que tu as tué un innocent. Envers toute la racaille, toute la saloperie. Alors en fait, la saloperie et la racaille, c'est toi, mon ami. C'est toi. Un autre élément a convaincu le PNAT de se saisir de l'enquête. Le fait que le suspect revendique son acte pour lui conférer une portée médiatique. Ce soir, je fais un carton, ce soir, je suis mort. Après, vous me verrez aux infos. Je meurs pour la France, je meurs parce que j'en ai plein le cul de tous ces gens de merde, j'en ai plein le cul des gauchos et plein le cul de tous ces gens qui défendent ces salopards. Là, j'ai dégommé les deux, trois merdes qui étaient près de chez moi pour commencer parce qu'il fallait les éliminer. Ça, c'est de la merde. Oh là là, quel enfer. Dans les lots, je pense qu'il y en a un ou deux qui n'ont pas de papier et ce n'est que le début. Les deux suspects de cet attentat, les deux victimes de cet attentat raciste sont un voisin du suspect, donc le ressortissant tunisien de 45 ans, c'est le monsieur dont je vous parle depuis tout à l'heure, retrouvé mort le corps criblé de 5 impacts de balles, et un ressortissant turc qui a été blessé par balle à la main. Le suspect s'aventure aussi dans ses vidéos de façon confuse sur le terrain géopolitique. Et puis les pro-Gaza, allez vous faire enculer. Je suis désolé, mais ça, on est dans une enquête pour terrorisme, donc on a des pièces qu'on est en train d'étudier pour voir à peu près le niveau de la personne. Donc les pro-Gaza, allez vous faire enculer. Les feuges, les juifs sont pas forcément nos ennemis. Donc il dit les feuges. Ce qu'ils ont fait, ben voilà, ils se sont fait tirer dessus. Ok. Ben j'ai fait pareil aujourd'hui pour leur montrer que la peur elle peut changer de camp. Tenez-vous à carreau les bicots car des mecs comme moi il va en avoir plein, tenez-vous à carreau. On devine cependant, entre ces paroles haineuses mais souvent décousues, que le suspect a conscience d'avoir commis l'irréparable. Il dit à deux reprises, dans deux vidéos différentes, son avoir sali son âme et explique son coup de folie. Ceux qu'en ont pris près de chez moi, c'est les gens sur qui il a tiré. Il le méritait parce que la police et la justice ne font pas leur boulot. Eux, ils méritaient parce que tous les jours insultés, tous les jours rabaissés, tous les jours on vous traite de raciste. Ben un jour, voilà, un jour on pète les plombs et un jour on leur met. Voilà, ça change les choses. Ces gens existent. Hein. Et je pense que ces gens-là, ces gens qui existent dans un pays comme le nôtre, quelque part peuvent se sentir légitimés / encouragés par certains discours, par un certain contexte. Un discours qui s'installe, un discours qu'on entend, qu'on accepte de plus en plus, qu'on tolère de plus en plus. C'est le honte, c'est la une du monde. Pris par l'émotion, les yeux embués, le suspect présente ses excuses à sa femme, dit adieu à ses proches, assure attendre la mort. Après qu'il entend des véhicules approcher de sa voiture, il déclare « Je suis un peu tendu, je la mettrai avant qu'il me la mette ». Je sais où me la mettre pour ne pas souffrir, voilà. Au revoir tout le monde, à bientôt là-haut. Ce soir je suis mort, je meurs pour la France. Allez, bisous les amis, et votez bien la prochaine fois. L'alerte avait été donnée samedi soir, peu après les faits, par la compagne de Christophe B., qui avait appelé les forces de l'ordre pour leur signaler que son compagnon venait de tirer sur un homme du voisinage. C'est sa compagne qui appelle les polices. Les militaires de la gendarmerie nationale avaient alors fait appel à l'antenne locale du GIGN pour interpeller le suspect qui avait pris la fuite en voiture, mais contrairement à sa volonté affichée de mourir pour la France, il se serait rendu finalement, de lui-même, aux gendarmes, sans chercher à attenter à ses jours. Sa garde à vue peut durer jusqu'à jeudi 5 juin, au matin. Voilà. On a plusieurs articles, on va prendre le temps sur ce sujet. On a un article notamment sur le fait que le RN tente de prendre ses distances par rapport à tout ça, puisque lui se réclame du RN, appelle à voter pour le RN, et dit « RN, on n'a rien à voir avec tout ça ». Et puis, pour rendre hommage à la victime, on ira lire un article que j'ai vu hier ou avant-hier, je crois, dans Le Parisien, peut-être, pour nous dire qui était ce monsieur qui a trouvé la mort sous les balles de ce monsieur. C'était il y a quelques mois, peu de temps après que des enquêtes journalistiques ont révélé la proportion de candidats, vous vous souvenez ? Défécateur nous dit, notre ami Défécateur, on attise les discours de haine, mais sinon on n'a rien à voir. Salut, tu vas bien ? Il y a quelques mois, peu de temps après que des enquêtes journalistiques ont révélé la proportion de candidats racistes ou antisémites soutenus par le RN aux législatives 2024, vous vous rappelez ? Ils en ont débranché en urgence, parce qu'ils avaient des candidats qui étaient complètement fous. Un élu du parti s'interrogeait sur l'impact des discours des dirigeants, ou plutôt leur absence de mise en garde contre les tentations extrémistes et violentes. C'était un élu RN qui disait, quand des néo-nazis sont persuadés qu'il y a une place pour eux au RN, c'est qu'on n'a pas été assez clair. Il va falloir envoyer des signaux, des messages beaucoup plus transparents auprès de la base adhérente, car une partie est persuadée que nous avons un programme caché plus radical. C'est un responsable du RN qui dit ça, qui dit on n'a pas été assez clair avec les néo-nazis, quoi. Christophe B., l'assassin présumé d'un Tunisien tué par balle samedi 31 mai au soir à Puget-sur-Argent dans le Var, était de ceux-là. Sympathisant RN sans en être adhérent, selon la Fédération du Var, mais persuadé que seule Marine Le Pen et Jordan Bardella sortiraient la France de la merde, seuls capables de nous protéger, de les renvoyer chez eux, comme il le dit dans cette vidéo dont on a parlé tout à l'heure, avant de se tourner vers le mouvement des Gilets jaunes, Christophe B. partageait sur ses réseaux sociaux des publications de Marine Le Pen, de David Rachline, sénateur RN du Var, futur maire de Fréjus. Lundi 3 juin, dans la soirée, avant que la presse ne se fasse l'écho des sympathies partisanes de Christophe B., Marine Le Pen et Jordan Bardella ont réagi dans un message sur les réseaux sociaux, qualifiant le crime de raciste. Sans commentaire, si, on a envie de faire un petit commentaire. Moi, je pense que quand Marine Le Pen et Jordan Bardella disent que c'est un acte raciste, c'est que vraiment, c'est quand même très, très raciste, quand même. Hein ? Je pense qu'on est obligé. On est obligé. Sur Facebook, plusieurs partisans le leur reprochent, prenant fait et cause pour le tueur. Il y a des gens qui ok, il y a des gens qui défendent le tueur, ok. Attends, on n'est pas au bout de nos... Le reste des élus d'extrême droite est resté silencieux, chose rare compte tenu de la gravité des faits. Un avis d'expert. Merci, Devavry. La députée RN de la circonscription de Puget-sur-Argent, qui s'appelle Julie Lechanteux, a attendu mardi en fin de matinée pour s'exprimer par communiqué, deux jours après les premières déclarations du procureur. Ma première réaction est de me dire que plus aucune ville n'est épargnée par l'ensauvagement et la violence. J'adore. Hein, ces élus qui dénoncent la violence dans nos cités, en fait, elle dit, bah oui, cet acte-là, ça montre bien qu'il y a un problème de sécurité dans notre pays. J'adore. Attendez, mais c'est pour une série, c'est pour un film, il y a des caméras, c'est comment ça se passe? Ma première réaction est de me dire que plus aucune ville n'est épargnée par l'ensauvagement et la violence. C'est la députée RN du coin qui dit ça. C'est incroyable. Interrogée sur le profil politique de l'assassin présumé, Julie Lechanteux répond de ne pas avoir entendu parler des opinions exprimées par Christophe B. sur les réseaux sociaux. Elle en parle, mais elle n'a pas trop lu quand même. Hein. Merci Son Hélène pour l'abonnement faire à craque dur, qu'on aime beaucoup ici. Voilà. Plusieurs heures après que la presse en ait fait l'écho. Voilà. Elle en parle, mais elle n'est pas trop au courant. Quoi. Il n'est pas dans nos adhérents. Et je ne l'ai jamais vu dans mon cercle. Hein, il n'y a aucun lien, aucune cohérence idéologique, c'est juste quelqu'un d'isolé, assure-t-elle. On ne peut pas être rendu responsable des dingueries de certaines personnes qui adhèrent à nos idées avec extrémisme. Hein, ces gens manquent un petit peu de mesure, finalement, nous dit cette dame. Hein, hein. Ça, tu vois, elle dit quand même, on ne peut pas être rendu responsable des dingueries de certaines personnes qui adhèrent à nos idées, donc elle qualifie, le meurtrier de quelqu'un qui adhère à ses idées. Mais le problème, c'est qu'ils le font avec extrémisme, avec manque de mesure, quoi. C'est un énorme contre son camp. C'est un énorme contre son camp. La députée souhaite se rendre à la marche blanche. Organisé dimanche par la famille de la victime. Quelqu'un dans le chat a dit tout à l'heure, après les propos de Bardella et de Marine Le Pen, imaginez, on les voit à la marche blanche. Elle veut y aller, elle. Voilà. Mais elle attend de savoir si la famille l'y autorisera. D'autres élus lepénistes disent ne pas voir le lien entre le discours porté par leur parti, notamment les propos racistes entendus dans la bouche de leurs adhérents, comme Le Monde a pu constater lors d'entretiens avec eux, et ce passage à l'acte. Voilà. On ne voit pas le lien. Il conteste également le caractère politique du crime commis à Puget-sur-Argence, qu'induit la saisine pourtant du parquet national antiterroriste. Un type qui tue son voisin n'est pas équilibré dans son raisonnement. Ça n'est pas un raisonnement politique, c'est une bouillie infâme, estime Laurent Jacobelli, le porte-parole du RN. C'est la France d'aujourd'hui, on est entré dans un monde très dangereux. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent récupérer ce meurtre pour nourrir le reste de leur discours sur l'insécurité en France. Tout est bon. Hein. Hein. Si j'osais, je dirais tout est bon dans le cochon. Quoi. Allons-y. Le vivre ensemble est devenu impossible. mais c'est une blague. En fait, je dors, je rêve. Voilà, et je rêve un article qui n'a aucun sens avec des déclarations qui n'ont aucun sens de gens. Quoi. C'est Florent Joubert qui dit ça, que le vivre ensemble est devenu impossible. Député RN de Dordogne, épinglé par le passé pour des propos xénophobes sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Certains parlementaires lepénistes ne sont pas toujours choqués toutefois par les appels à la haine raciale. Lundi 2 juin, le site Les Jours, qui est un très bon site d'information, a révélé l'existence des anciens de Libé. L'existence d'une nouvelle page Facebook administrée par des cadres locaux et collaborateurs parlementaires du RN. Ok ? Nommée La France avec Jordan Bardella, elle regorge de propos antisémites, racistes, homophobes, certains contenant des appels à prendre les armes contre les personnes d'origine étrangère. Ces messages étaient publiés au vu et au su de pas moins de 9 députés RN. Quand assez régulièrement des gens dans ce chat me demandent, mais Samuel, le RN me disent, mais Samuel, le RN n'est pas raciste. Mais le RN n'est pas raciste. Qui nous dit que le Rassemblement National est un parti, un mouvement raciste? Ses militants, ses sympathisants, ses élus, dans leurs déclarations publiques et parfois condamnées par la justice. Point. Continuons, on va prendre le temps. Oui, et puis ses fondateurs et son histoire aussi. Mais sans aller, vous voyez, on n'a même pas besoin d'aller sur... de rappeler que ce sont, qu'il y a eu des anciens nazis, collabos, qui ont créé le FN. On n'a même pas besoin de remonter à ça, quoi. Juste l'actualité, juste l'actualité. La communauté musulmane, elle, ne se sent pas protégée comme les autres citoyens. Pour des représentants des personnalités musulmanes, le meurtre d'Hicham Mirawi s'inscrit dans un climat préoccupant, de plus en plus hostile envers leur confession. C'est un crime raciste avec une dimension terroriste, selon le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Le conseil des mosquées s'alarme. Ce meurtre s'inscrit dans un climat préoccupant et de plus en plus hostile envers les citoyens de confession musulmane en France. Climat alimenté par des politiques franchement irresponsables qui oublient que le matraquage quotidien d'une partie de la population, c'est dangereux. Ça a des conséquences graves. Ça met les gens en danger, dénonce l'essayiste Hakim El-Karaoui. Ce dernier redoute que ce que l'on craint depuis des années soit en train d'arriver, le passage de l'ultra-droite à la violence. Cette ambiance vécue comme hostile est également nourrie par des propos stigmatisants devenus presque quotidiens sur les plateaux de télévision, souligne Azedine Gassi, qui est imam et recteur de la mosquée de Villeurbanne. Pour les figures de la communauté musulmane en France, il existe un continuum clair entre l'assassinat d'Hicham Mirawi et celui du 25 avril de ce jeune homme, vous savez, Aboubacar Cissé, dans une mosquée du Gard. Jeune malien de 22 ans, lardé de plusieurs dizaines de coups de couteau par un Français de 20 ans, qui a filmé, je ne sais pas si vous en souvenez, sa victime agonisante en répétant « Je l'ai fait, ton Allah de merde ». Je ne lis pas tout le papier, hein, pas trop tout le temps, mais n'hésitez pas à venir le lire dans Le Monde. L'imam de la mosquée Al-Hashimi à Saint-Ouen établit lui aussi un lien entre les violences qu'il estime anti-musulmanes, voilà, et non racistes, comme on s'est empressé de le dire, et un climat politique qui vise de plus en plus ouvertement les musulmans. La parole s'est libérée, ça restera pour longtemps. Déplore M. Ben Ali. Qui met par ailleurs en cause Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Un jour, le ministre de l'Intérieur, qui est chargé des cultes, par ailleurs, se montre à notre écoute. Et le suivant sont des nouvelles déclarations faites pour stigmatiser au service de son agenda politique. Les musulmans ne se sentent pas protégés comme les autres citoyens, dénonce-t-il. Ils font face à des discriminations, à un plafond de verre, à des déclarations hostiles et aujourd'hui, logiquement, à de la violence. Alors, je ne sais pas si on va relire, parce qu'on a déjà lu pas mal de propos surréalistes du monsieur issu de ces vidéos-là, mais il y a aussi un article sur tous ses posts sur Facebook, quoi, qui est un profil public. Je vous ai déjà dit l'essentiel tout à l'heure, quoi. Puis on a je trouve qu'on a entendu suffisamment d'insultes raciales déjà dans ce qu'on a lu précédemment. En fait, vous avez son parcours, quoi. Florilège. C'est lui qui dit ça. Attends, je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Florilège, Donc là, on est en 2016, à propos de la ministre de l'Éducation de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, qui l'accuse, donc sur Facebook, propos jamais modérés par la plateforme, qui l'accuse de vouloir faire apprendre l'arabe dès la maternelle aux écoliers. J'espère que qu'on t'aura mis un Coran dans le cul et que tu boufferas les pissenlits par la racine, sale pute. Voilà. Ça sont des propos publics. En France. Voilà. Qui n'ont jamais été poursuivis. Bon, il est aussi contre l'encadrement de la chasse, il est contre les contrôles des pneus lisses, voilà. Il a été gilet jaune, il a relayé des publications aux actions complotistes. Voilà, bon, il s'informait auprès de sites qui mélangeaient un petit peu tout, hein, vous ne serez pas très surpris. Un site que je ne connais pas qui s'appelle Epoch Time, caractérisé par un mélange d'informations réelles et d'infox susceptibles de générer des visites. Moi, j'aimerais aussi que ce matin, qu'on rende hommage à la victime, là, en fait. Et je crois avoir lu, dans le Parisien, un portrait, en fait, de ce monsieur qui est Hichem Mirawi, qui était coiffeur. J'arrête dans 20 minutes, mais... Je crois l'avoir vu dans le Parisien, je vais essayer de vous le trouver. Ouais, j'ai trouvé.
Alors, qui était Hichem Mirawi, tué par son voisin lors d'un crime raciste.
Toi, c'est la vidéo, ça, on s'en fiche. Alors, c'est sur abonnement, mais comme je suis abonné, hop. Qui était la victime ? Coiffeur, Hichem Mirawi a été assassiné samedi soir donc, par un de ses voisins. Les deux hommes se connaissaient. Victime d'un crime raciste, c'est devant son lieu de travail que des dizaines de personnes sont venues lui rendre un hommage. Un homme profondément gentil, respectueux, apprécié par toute une ville. Hichem Mirawi, Tunisien âgé de 46 ans, assassiné donc samedi soir. Né en Tunisie, Hichem Mirawi est issu d'une famille de 8 frères et sœurs, nous apprend l'avocat de la famille. Le quadragénaire avait décidé de quitter son pays natal pour trouver un avenir meilleur en France, laissant ses parents en Tunisie. Coiffeur, Hichem Mirawi travaillait dans un salon de Puget sur Argence, donc j'en déduis qu'il était salarié, que ce n'était pas son salon. Voilà. Alors, on a des témoignages d'habitants et peut-être de clients du salon. Quelle horreur, c'était un si brave jeune homme, témoigne Mégane auprès du journal local. Il coiffait mon fils de 5 ans, s'entendait si bien avec lui. Il était si doux, si calme. Il avait un petit oiseau dans une cage dans le salon de coiffure. Quand il coiffait notre fils, il le sortait pour qu'il puisse le caresser. Apprécié par les clients du salon de coiffure, Hichem Mirawi était aussi un homme sans histoire. Il était inconnu du service de police. La mort d'Hichem est la conséquence directe d'une atmosphère alimentée par la stigmatisation, les amalgames, la banalisation de la violence raciste. Explique l'avocat. Jeune, 40 ans, Ascalaf, tu connais l'âge du streamer ici ? Tu cherches les ennuis, toi. Hichem Mirawi a été mortellement touché par 5 impacts de balles. Et après, la suite, vous le savez. Voilà. Nous irons les prochains jours pour voir la suite de l'enquête, puisque le tueur a été appréhendé après avoir pourtant assuré qu'il allait se suicider. Et en fait, il s'est rendu, donc il y aura, on l'espère, un procès. Voilà pour cette première actualité. Je vous lis un petit peu avant de passer à un sujet toujours très léger, de savoir si on doit utiliser le mot génocide à propos de ce qui se passe à Gaza. C'est la une de la Croix ce matin. Peux-tu rappeler le titre de l'article du Monde ? Merci, mademoiselle bébé, c'est... Je te le montre, regarde. En fait, c'est la une, d'abord. Dans le Var, autopsie d'un attentat raciste. Et après, on a l'article qui s'appelle « Les obsessions du suspect de l'attentat raciste dans le Var ». C'est la dernière édition du Monde, sachant qu'en début d'après-midi, il y a une autre édition du Monde qui va sortir. Quoi. Coucou Super Palouf. De rien, mademoiselle bébé. D'ailleurs, ils ont dit quoi sur CNews ? Alors, je ne sais pas, petit Fred, puisque je ne regarde pas CNews. Donc, mais c'est une bonne question. L'avocat d'Hichem aurait expliqué qu'Hichem avait tenté d'apaiser la situation que son voisin il y a quelque temps en offrant à manger au tueur. Oui, tout à fait. J'ai vu cette information qu'il avait, il cuisinait et qu'il avait offert un plat au meurtrier qu'il avait accepté d'ailleurs. Salut Matty Crazy Pumpkin. Allez, on aura l'occasion d'en reparler. Comptez là-dessus. Alors, c'est pas la première fois qu'on se pose cette question. C'est pas la première fois qu'on parle de cette chaîne du Proche-Orient. On en parle quasiment dans chaque revue de presse depuis littéralement 5 ans. J'espère qu'un jour on ne parlera plus du Proche-Orient. Ça voudrait dire que la paix sera revenue dans la région. J'espère vivre ça de mon vivant, même si je ne suis pas très optimiste. Sujet relancé ce matin par le journal La Croix, avec cette interrogation, qui ne veut pas dire réponse. Le fait de s'interroger, de se poser la question, n'est pas une réponse en soi, hein, pour ceux qui démarrent au quart de tour. Peut-on parler de génocide à Gaza ? La Croix ne dit pas par ce titre qu'il réfute le terme. Je préchote parce que je connais certains. L'utilisation de cette qualification juridique pour dénoncer l'action militaire israélienne à Gaza se banalise dans le discours public, constate La Croix, notamment en France, mais reste tabou en Israël. Le poids d'un mot, c'est un édito, donc c'est un article où la journaliste ici, Fabienne Lemayeux, donne son avis. C'est un débat sémantique et juridique qui dissimule mal l'urgence humanitaire aiguë dans l'enclave palestinienne et ne préserve pas la communauté internationale d'une faillite morale. La guerre menée par Israël dans la bande de Gaza après les attaques terroristes du 7 octobre 2023 relève-t-il du crime génocidaire ? Quelle que soit la réponse à cette question, dit La Croix, ça n'empêchera pas de s'interroger sur les responsabilités de la communauté internationale dans son inaction. Vous voyez, c'est intéressant déjà. Alors, est-ce que c'est un crime génocidaire ? Oui, affirment certains en nombre, penseurs, artistes, politiques, activistes, qui pour certains ont déjà porté la question devant la justice internationale. Non, répondent d'autres, experts, historiens, qui assurent qu'il faut encore instruire le dossier et prouver qu'il n'y a non seulement intention de détruire une population en tant que telle, mais de surcroît passage à l'acte. Alors RGBA dit on attend quelque part qu'il n'y ait plus personne pour le qualifier. La Croix a choisi de ne pas employer le terme tant qu'il n'est pas reconnu juridiquement. C'est un choix du journal. La montée de telles accusations marque de fait un changement profond dans l'opinion publique et les positionnements politiques. Pour autant, leurs traductions sur le terrain ne sont pas à la hauteur de la tragédie en cours. Certes, les mots ont un sens, oui, une histoire, une valeur juridique qui leur confère une puissance d'action. Mais n'attendons pas un jugement de la Cour internationale de justice qui pourrait qualifier de génocidaire la politique de Netanyahou pour obtenir la protection des populations civiles de Gaza. La Croix dit, quel que soit votre avis sur le sujet, il faut arrêter ce qui se passe. Mi-juin, la France pourrait reconnaître officiellement l'État palestinien, dont on a parlé ici il y a deux jours. Cette solution à deux États constituerait un premier pas vers une résolution, même contrainte. De toute façon, on n'aura pas le choix. Hein. Vous connaissez ma position là-dessus. Palestiniens et Israéliens n'ont pas réussi, en plusieurs décennies, à trouver les moyens de la paix, malgré les efforts de certains de part et d'autre. Il faut que la solution vienne de la communauté internationale, même contrainte du conflit armé. L'indignation ne suffit plus. Se profile le jour où l'inaction sera aussi coupable. Moi, je répète cette phrase. Se profile le jour où l'inaction, ici de la communauté internationale, sera aussi coupable que le bras armé qui achève les enfants de Gaza. La solidarité avec le traumatisme d'Israéliens après les attentats du 7 octobre doit s'accompagner de la même humanité envers les Gazaouis. Voilà. Ça, c'est l'édito qui ne résume pas le débat. Il y a un gros dossier qu'on va lire. Là aussi, on va prendre le temps. C'est un sujet qui me semble important. Peut-on parler d'un génocide des Palestiniens ? Rapport. Tribune. Appel onusiens à empêcher un génocide. L'utilisation de cette qualification juridique jadis tabou pour dénoncer l'action militaire israélienne à Gaza se banalise maintenant dans le discours public. En France, elle dépasse désormais largement les sphères de la gauche radicale. Dans la société israélienne, malgré la crainte de devenir un État paria, le mot ne passe pas compte tenu du référentiel à la Shoah. Qu'est-ce qu'un génocide ? Forgé par le juriste Raphaël Lemkin en 1944 pour qualifier la singularité et l'atrocité du crime commis par les nazis sur les juifs d'Europe, le mot génocide, du grec génos qui désigne à la fois naissance et peuple, et du latin cadere, tuer, tuer un peuple, est défini juridiquement par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par les Nations Unies en 1948. Ce crime, définition, s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesure vivant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Alors, pardon, quand je lis cette définition, quelle définition des Nations Unies ? Génocide. Selon cette définition, le génocide se caractérise par deux éléments constitutifs. D'une part, l'intention de détruire totalement ou partiellement le groupe cible. L'intention. D'autre part, la mise en œuvre de cette intention, autrement dit le passage à l'acte. Depuis 1948, la justice internationale a reconnu l'existence d'un génocide à trois reprises. Depuis 1948, donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a évidemment celui des nazis contre les juifs, et puis après 1948, il y a quoi ? Il y a 1998, le massacre des Tutsis en 1994 au Rwanda. 2001, pour les musulmans de Srebrenica, tués en 1995 en Bosnie-Herzégovine. 2018, pour qualifier le sort des... On dit Shams ou Kams ? Et de la population d'origine vietnamienne réservée par les Khmers Rouges, hein, c'est la dictature de Pol Pot, entre 1975 et 1979. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire et ça, c'est la définition. LDTR, et il y a les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, LDTR qui n'écoute absolument rien de cette revue de presse, je viens d'expliquer à l'instant. Après 48, c'est pas grave, je suis habitué. Quelles sont les procédures lancées par la justice internationale ? Il y a deux procédures à ce stade. Fin décembre 2023, soit deux mois et demi après le début de la guerre de représailles aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023, l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice pour violation présumée de la Convention sur le génocide dans la bande de Gaza. Saisine de l'Afrique du Sud. La décision de la Cour internationale de justice pour trancher s'il y a eu non-génocide, pouvant prendre des années, et les années, non, c'est pas possible, ce sera trop tard, l'Afrique du Sud a réclamé des mesures conservatoires face à l'urgence humanitaire dans l'enclave. Oui, alors Fiou a tellement raison, résume tellement ce qu'il faut dire sur ce sujet. Pourquoi à chaque fois qu'on dénonce quelque chose dans le monde, il y en a un pour dire « Ah ouais, et on dénonce pas ça !» On est habitué, Fiou. Il faut faire des articles qui dénoncent toutes les injustices du monde. Si on en rate un, c'est pas légitime. Voilà. En fait, l'idéal pour ces gens, c'est que dans un article qui dénonce une injustice, il faut être dans le même article, il y ait toutes les autres injustices dans le monde. Depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, partout. Sinon, en fait, c'est pas bien. Ça n'est pas faire. Voilà. Bon, évidemment, intellectuellement, cette position n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, on peut avancer. Merci de l'avoir évoqué, ça. Ah oui, mais alors vous ne parlez pas de... Bah, le fameux. Bah, qui du coup conduit à l'inaction la plus totale. Hein. C'est une façon aussi de dire... Bah non, parce que comme on ne parle pas de ça, bah non. Hein. Et puis ça, tout qu'on fait pas. Donc, l'Afrique du Sud a demandé des mesures conservatoires face à l'urgence humanitaire. La Cour internationale de justice a notamment ordonné, fin janvier 2024, à Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Donc la Cour internationale de justice parle, elle, de génocide. Merci Grace Ware pour la bonne refaire à Pig Weedy. Merci Sonny Red. Merci. La Convention ayant une dimension répression et une dimension prévention, les mesures conservatoires étaient très importantes. Mais un an et demi après, Israël a ignoré les trois ordonnances de la Cour internationale de justice. Fin octobre, Pretoria, l'Afrique du Sud toujours, a déposé un dossier de preuve du génocide devant la Cour. Plusieurs États, l'Irlande, la Turquie, le Chili se sont joints à son action. Donc, procédure à la CIJ, la Cour internationale de justice, procédure également lancée par la CPI, la Cour pénale internationale, également à la haie. La CPI, elle, juge les individus. Et effectivement, comme quelqu'un le disait dans le chat, la CPI, non pas la CIJ, a émis en novembre 2024 des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien, Netanyahou, et de son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces mandats ne concernent pas le crime de génocide, probablement parce que la CPI n'avait pas à ce stade d'éléments de preuve ou d'informations en son sens, mais il faut souligner que le crime contre l'humanité et le crime de guerre sont d'une tout aussi extrême gravité. Il y a une différence morale avec le crime de génocide, ou une intention de détruire une population en tant que telle, mais il n'y a pas d'échelle de gravité juridique. Question de la croix, moi je... Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour le journal Lacroix parce que c'est un journal qui travaille beaucoup de rigueur. Voilà. Alors on peut être parfois qui prend position sur des sujets et on peut être d'accord ou pas avec eux, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de rigueur dans leur démarche journalistique. Franchement, si tous les journaux travaillaient comme Lacroix, ce serait top, quoi. Alors, y a-t-il une intention génocidaire ? L'intention. Parce qu'on a vu que pour définir un génocide, il faut l'intention et le passage à l'acte. Est-ce qu'il y a une intention déjà ? Pour les grandes ONG de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International ou Human Rights Watch, cette intention, elle existe. Amnesty notait le 5 décembre 2024, au moins 102 déclarations de dirigeants israéliens, notamment des membres de la Knesset, c'est le Parlement, ou du cabinet des guerres, qui déshumanisent les Palestiniens, légitiment le génocide, voire appellent à commettre des actes génocidaires. Et d'ajouter, 22 proviennent de hauts responsables directement en charge de l'offensive à Gaza, et qui semble demander ou justifier des actes génocidaires, ce qui est une preuve directe de l'intention de commettre un génocide. Dans son ordonnance de janvier 2024, la Cour internationale de justice évoquait aussi plusieurs déclarations faites par de hauts responsables israéliens, animalisant, essentialisant les Palestiniens, dont celle de Yoav Gallant, deux points ouvrez les guillemets, nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence. Ministre de l'Intérieur. Et d'Isaac Herzog, président d'Israël, c'est une nation entière qui est responsable. Voilà. Toutefois, donc l'intention, pour certains, elle est claire. Toutefois, cette analyse sur l'intention ne fait pas l'unanimité parmi les experts des génocides. L'intentionnalité n'est pas démontrée, dit l'historienne Annette Becker. Il y a ces déclarations, oui, de dirigeants israéliens de type génocidaire. Mais elles n'engagent que leurs auteurs. Ces propos sont condamnés au sein même de la société israélienne. Je pense au mouvement Shalom Ashkav. La paix maintenant, jusqu'à preuve du contraire, l'armée israélienne commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, contre les Gazaouis, mais elle ne suit pas un plan concerté qui vise à leur éradication, estime la spécialiste des violences de masse. J'assume que dans aucun génocide connu, les génocidaires ont prévenu la population cible pour qu'elle échappe à leur frappe. L'argument que ces propos de responsables israéliens sont condamnés au sein de la société israélienne, bah, oui, comme le dit RGBA, les auteurs sont en position de pouvoir. Et puis, dans l'Allemagne nazie, il y avait des Allemands qui,
qui étaient opposés à Hitler. Il y avait des Allemands qui n'étaient pas antisémites. Il y a même des Allemands qui ont protégé et caché des Juifs. Et est-ce que ça nous permet de nier le génocide nazi? Donc, moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas spécialiste, mais le fait qu'il y ait des gens en Israël qui ne souscrivent pas à cette intention génocidaire ne me semble pas suffisant pour dire que ce n'est pas un génocide. L'intention génocidaire, elle existe dans la déclaration de responsable politique de premier plan en Israël, ça me semble suffisant. Mais ce n'est que mon avis. Alors, plus tricky, l'intention, si elle est qualifiée, est-ce que on a le passage à l'acte? L'expression acte génocidaire est parfois préférée au mot génocide, mais est-ce qu'il y a une différence? Alors, déjà, on a quelqu'un qui répond, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction utile, répond William Chabas. Pour qu'ils deviennent génocidaires, les actes doivent être commis avec une intention et constituent donc un génocide. Pascal Turlan, lui, il pense que c'est plutôt une précaution oratoire pour dire que c'est pas directement c'est un génocide. Il note que pas mal de chefs d'État n'utilisent pas ce mot de génocide. Dire qu'il y a un génocide impliquerait des obligations pour les États qui doivent employer tous les moyens à leur disposition pour prévenir ce crime lié au fait qu'ils ont ratifié la convention sur le génocide. Et voilà, et ça expliquerait pourquoi certains responsables de pays n'utilisent pas le mot. Reste que les accusations de génocide ou d'actes génocidaires se multiplient. Une commission d'enquête des Nations Unies a assimilé le 13 mars dernier les attaques systématiques d'Israël contre la santé sexuelle et reproductive à Gaza à des actes génocidaires. Le fait qu'on empêche un peuple d'avoir des enfants, quoi. Le 2 mai, Amnesty dénonçait encore le siège imposé à l'enclave comme un acte génocidaire. Mais là encore, débat de juristes et d'experts qui divergent. Pour William Chabas, il y a beaucoup de preuves de génocide, des déclarations effroyantes, provocatrices, combinées avec des actions sur le terrain. Le problème dans la démonstration de l'intention n'est pas d'établir des preuves, c'est d'éliminer d'autres explications. Or, il est clair que les buts affichés par Israël, autodéfense, destruction du Hamas, libération des otages, sont des prétextes pour dire que ces dirigeants, pour ce que ces dirigeants essaient d'accomplir. Un grand Israël sans vie palestinienne, dit le spécialiste, qui lui parle de génocide depuis 2023. Pascal Turlan, lui, il reste plus prudent. Vous voyez, il y a un expert qui dit il y a zéro débat, c'est un génocide. Voilà. Et un autre qui dit de plus en plus d'informations publiques laissent s'exprimer une intention qui pourrait être qualifiée de génocidaire, mais je ne peux pas, moi, le prouver, dit-il. Je n'ai pas enquêté, je n'ai pas les éléments de preuve, l'ensemble des faits, et les déclarations ne sont pas, en tant que telles, suffisantes devant une juridiction. Alors ça, c'est une réaction un peu de loi, quoi. Mais avec le temps qui passe, les informations qui sortent, la multiplication des annonces, des prises de position publiques, la destruction continue, les restrictions à l'accès humanitaire, le ciblage des civils, la question d'une possibilité d'intention génocidaire se pose de plus en plus. Voilà. Donc vous voyez, donc la Croix pose avec beaucoup de rigueur, beaucoup de prudence le débat en disant voilà, ceux qui disent aujourd'hui zéro débat c'est génocide, et ceux qui disent on peut pas, c'est compliqué de l'affirmer, même si effectivement il y a énormément d'éléments qui nous permettent de le dire. Hein. On est sur des prudences sémantiques, des prudences juridiques, mais ces gens disent de toute façon, quelle que soit la qualification retenue, ce qui se passe est monstrueux, et la communauté internationale doit tout faire pour l'arrêter. Comme le dit Framboise, une fois que ce sera posé ou non, qu'est-ce que ça change au niveau des actions? Voilà. L'important, c'est plus important que ce débat, la vie d'un seul Palestinien. Plus important que ce débat génocide ou pas génocide, c'est la vie d'un seul Palestinien. Si je puis me permettre. En Israël, qu'est-ce qu'on pense de ce débat? Encadré de la Croix, en Israël, une réaction au prisme de la Shoah. Voilà. Israël, où vivent de très nombreux juifs qui ont été visés, eux ou leurs aïeux, par un génocide, ils voient ce débat au prisme de ce qu'ils ont vécu, eux ou leurs ancêtres. Face à un monde qui commence à légitimer le mot génocide, la société israélienne amorce un début de prise de conscience tout en soutenant majoritairement l'expulsion des Palestiniens de Gaza. Une contradiction qui reflète les tensions entre passé et présent et leur utilisation politique. C'est intéressant ça. Les ONG ont été les premières à lever la voix dans la foulée de l'ouverture de la plainte pour génocide à la Cour internationale de justice dont on vient de parler. Amnesty, Human Rights Watch ont publié des rapports en décembre qui concluent qu'Israël commet un génocide contre les Palestiniens de Gaza. D'abord critiquer ces positions ont gagné en légitimité. Quelques mois plus tard, la rupture du cessez-le-feu par Israël en février et le lancement de l'opération Chariot de Gédéon mi-mai. Les menaces de famine généralisées après 2 mois de blocus, la perte de patience de la communauté internationale soucient désormais la branche libérale démocrate de la société israélienne, inquiète de voir leur pays devenir un État paria. Ils étaient aussi quelques dizaines ce mardi à se tenir silencieusement devant la base Hatzor de l'armée de l'air israélienne avec des pancartes brandies par ces activistes israéliens, je le rappelle, avec les visages des enfants de Gaza. Au moins 20 000 de ces enfants seraient morts sous les bombes israéliennes. Les slogans en lettres capitales de ces militants israéliens qui accompagnent les images disent refuser de bombarder. C'est des Israéliens qui manifestent pour appeler les militaires israéliens à ne pas bombarder. Des scènes encore inimaginables il y a quelques mois qui accompagnent une évolution dans le vocabulaire chez les Israéliens. Moshe Yalon, ancien ministre de la Défense affilié au Likoud, a parlé de nettoyage ethnique. Vous avez des Israéliens aujourd'hui qui ont été d'anciens responsables à haut niveau politique qui disent c'est un nettoyage ethnique. Le député d'opposition Yair Golan a qualifié Israël de commettre des crimes de guerre. Depuis le mois d'avril dernier, les manifestations de Tel Aviv et Jérusalem ont vu apparaître des banderoles racistes, génocide. Vous avez des Israéliens qui qualifient ce qui se passe à Gaza de génocide. Ce mot est chargé en Israël. Ça, vous le savez. Cette utilisation, loin d'être anodine, reste extrêmement minoritaire. Ceux qui l'emploient même en Israël sont aussitôt taxés d'antisémitisme. Les Israéliens ne pensent au génocide qu'à travers le référentiel de l'Holocauste. C'est le seul qu'ils connaissent. Mais un génocide ne doit pas nécessairement ressembler à l'Holocauste pour être considéré comme tel, dit un professeur d'histoire à l'université de Jérusalem. Ce chercheur fait partie des quelques spécialistes du domaine qui qualifient de génocide les actions d'Israël à Gaza. Chaque génocide est différent, tous n'impliquent pas nécessairement le massacre de millions de personnes ou de tout un groupe. Cela est explicitement reconnu dans la convention de l'ONU sur le génocide de 48. On a lu la définition tout à l'heure, on l'a vu ensemble. La manière dont l'Holocauste est enseigné en Israël et en Occident est en ce sens contre-productive. C'est intéressant ça aussi. La majorité des Israéliens n'ont pas de mémoire biologique de l'Holocauste, ils n'ont pas vécu dans leur chair, explique un professeur. Ce qu'ils en connaissent, c'est que ce que l'État leur a inoculé, une solidarité, une identité, une peur existentielle de ce qui pourrait arriver à nouveau, une idée qu'il faut protéger l'État d'Israël. Le 7 octobre 2023, les attentats du Hamas, les attentats monstrueux du Hamas, et sa comparaison immédiate avec l'Holocauste incarne parfaitement cette idée, le « never again », plus jamais ça, qui est devenu une justification au massacre inconsidéré des Palestiniens. Merci Illusion. Pardon, je ne t'ai pas remercié tout à l'heure. La société israélienne est parsemée de tensions sur le sujet. Le 27 mai, vous avez un collectif de 1300 universitaires qui ont appelé à la fin de la guerre, invoquant un effondrement moral du pays. Il s'agit d'une litanie effroyable de crimes de guerre et même de crimes contre l'humanité, tous commis de notre propre chef. Nous ne pouvons pas prétendre que nous ne savions pas, ce sont des Israéliens qui le disent. Nous sommes restés trop silencieux, trop longtemps. Écrit ce groupe d'universitaires qui a pris le nom de Black Flag, référence à l'histoire militaire d'Israël qui évoque un ordre illégal ou immoral auquel les soldats doivent refuser d'obéir. Pourtant, une enquête, dont on a beaucoup parlé ici parce que le chiffre il est fou, pourtant une enquête publiée le 28 mai par le professeur Tamir Sorek de l'Université d'État de Pennsylvanie a montré que 82% des juifs israéliens soutiennent le transfert des Gazaouis hors de l'enclave. Le fait de chasser tous les Palestiniens de Gaza. C'est terrible. Cela montre qu'une écrasante majorité ne voit pas ça comme un crime ou comme moralement condamnable, souligne le chercheur. Ce sondage est un signal d'alarme urgent. La situation peut encore empirer. Juge Dalila Shendlin, sondeuse spécialiste de l'opinion israélienne. Les juifs israéliens en sont venus à considérer les Palestiniens de Gaza comme synonyme du Hamas. Le Hamas comme synonyme du 7 octobre. Et les deux comme synonyme des nazis. Poursuit l'analyste avant de dresser un parallèle, c'est ce type d'extrémisme alimenté par les dirigeants qui a attisé le racisme nationaliste serbe lors de l'éclatement de la Yougoslavie a dégénéré en acte génocidaire contre les musulmans de Bosnie. En filant la comparaison historique, Dalia Shenlin veut rester optimiste. Les pires régimes, les pires guerres de l'histoire récente ont fini par donner naissance à certains des pays les plus pacifiques, prospères, coopératifs, productifs du monde. Les leaders de ce changement, la communauté internationale donc, manquent toujours à l'appel. C'est pas mal. C'est quand même un dossier extrêmement bien fait, quoi. On est loin du café du commerce, quoi. Tu as du courage et de la patience pour aborder ces sujets en stream, Romsito. C'est gentil. À une époque, ça m'a fatigué, hein. J'ai eu un petit coup de mou sur la revue de presse à un moment, là, parce qu'on évoque ce sujet quasiment tous les jours. Et je me dis, voilà, oh là, franchement, je préfère jouer aux jeux vidéo, quoi. Et puis, parce que parfois, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu violent. Et puis, parfois, je donne mon avis, je prends parti sur certains sujets, ce qui peut se retourner contre moi aussi, tout en expliquant que ça n'est que mon opinion, qu'elle ne vaut pas grand-chose. Mais parfois, c'est fatigant. Mais en même temps, bah il faut, je trouve que c'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail qu'il faut faire. D'où le fait que je refais plus de revues de presse. Merci Solemikova. Voilà. Bon, je trouve que c'est un très bon dossier dans la Croix en vrai. Est-ce que ta prise de position ou tes prises de position ici, t'as déjà fait défaut à la télé? Non. Mon employeur... Mon ex-employeur, puisque aujourd'hui je suis travailleur indépendant et je suis plus salarié de France Télévisions, j'ai pris ma liberté, même si je présente toujours Question pour un champion. Mon ancien employeur ne m'a jamais ennuyé avec un contenu que je faisais sur Twitch. Jamais. Ce qui est vraiment. Ce qui a salué en vrai que pour avoir travaillé pour plein d'entreprises médiatiques, publiques, privées, etc., je sais qu'il y a très peu de groupes qui m'auraient laissé cette liberté, qu'ils m'ont laissé. En vrai, c'est cool, quoi. GG pour ça. Merci Pixel Curieux. Ouais, je suis un petit peu en freelance. C'est un peu un foufou. Merci Babadit. Salut Fiu. Merci pour le deuxième. Merci pour ton message. Mais ça fait plaisir en vrai de parler avec vous. Indépendant grâce à tes 12 millions par an. Bien sûr, Scalaf. Oh. Merci Miss avec plein de S. Tu rachètes quand ces news avec ces 12 millions? Bien sûr qu'on va parler de la Switch 2, mon ami, c'est prévu dans la revue de presse aujourd'hui. Je l'ai pas reçu, je vais aller la chercher, Jolou. Merci pour le Prime. Je vais y aller cet après-midi là. En fait, j'aurais pu la chercher ce matin à 9h30. L'endroit où je pouvais avoir ma Switch 2 ce matin, c'est ouvrir à 9h30. Mais ça aurait voulu dire pas faire la revue de presse. Et vous m'avez suffisamment reproché, vous avez eu raison de faire moins de revues de presse. Donc je me suis dit non, Samuel. Ta Switch 2, t'iras la chercher cet après-midi. Quand t'auras fait ta revue de presse. Tu rachètes CNews et tu en fais une chaîne full dédiée à Valo. J'adore. Attends, je regarde Joe m'envoyer des messages. On a un petit stream jeudi prochain avec Joe, là, vous m'en direz des nouvelles. Ça va être une dinguerie. Attends, c'est par rapport à l'annonce du stream de la semaine prochaine là, qui va être top. Ok, ils sont ok. Que j'en parle en stream. Et aussi sur les RS demain matin. C'est pour l'annonce de ce stream de fou ou uniquement en stream le matin et sur les RS à 17h. Bon, j'essaie de
tout le monde soit content. Voilà. Ok, super. Grosse question, Samuel Etienne. Si tu es le Citizen Kane de Twitch, tu dirais quoi sur ton lit de mort? Je dirais... Rosebud. Baby. Heavy Rain, c'est... Non, je pense que je vais passer par la Switch 2 d'abord, avant de revenir à Heavy Rain. J'écoute pendant que je ponce Mario 4, la surprise pour mon fils après l'école, il va être dingue. South Dark, je pense que ça va être un joli moment familial, ce que tu évoques. Trop bien. Trop bien. Bon. Bon, merci en vrai, parce qu'on a, on a quand même abordé deux sujets compliqués et tendus ce matin, et j'ai vu que le chat était vraiment ok, quoi. Ça fait trop plaisir. Voilà. Quelle heure il est? On enchaîne un petit peu. Voilà. Bon, j'avais une interview dans Le Monde de Ehud Olmert, qui est un ancien premier ministre israélien travailliste, qui parle notamment de crimes de guerre à propos de ce qui se passe aujourd'hui, mais qui va être un petit peu redondante par rapport à ce qu'on a lu, qui est juste la confirmation qu'en Israël, il y a des gens qui dénoncent ce qui se passe actuellement, quoi. Voilà. Y compris des anciens responsables. Donc, je ne vous le relirai pas. Par contre, on va parler un petit peu rapidement d'impôts. Parce que les finances, bah, les finances sont pas au top. Les finances, le budget, le déficit, tout ça, bon, vous le savez. Il y a eu des articles sur la fermeture des sites olé olé. Les sites cochons, tu veux dire, mec? Oui, mais je n'ai pas trouvé les articles trop foufou en vrai. Une espèce de bras de fer, les sites qui disent « Ouais, puisque vous voulez qu'on vérifie l'âge des gens qui viennent sur notre site, ben dans ce cas-là, ben on supprime le site. On boude. Comme ça, voilà. » Bon, franchement, j'ai pas trouvé ça... Ouais. RIP LeBron James. Qu'est-ce que vient faire le basket là-dedans? Ouais. LeBron James. Que vient faire la NBA dans cette histoire de site porno? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. MMG, quand je fais des gros clins d'œil là, à 200 kilos de pression, essaye de les voir, bordel. Attends, fais un effort, fais tes efforts. Voilà, wink wink, merci Sarah. Tu vois, MMG, bordel. MMG, toi qui l'écoute, il doit pas regarder. Je le refais. Un peu plus appuyé. C'est bon, tout le monde l'a vu? C'est bon? Ça parle basket exactement, mon beat. Donc, parlons des impôts. Ah, les impôts avec... Qui nous parle des impôts? Est-ce que ce serait les échos? Eh oui. C'est un AVC. Ça arrête, c'est un AVC, ça. C'est pas un clin d'œil. J'adore. Hop là. On va passer 10 heures en revue de presse. Il y a trop d'articles passionnants ce matin. Alors, c'est la piste de l'année blanche. Comment on trouve des sous? T'as oublié ta déclaration, Jean-Luc Pimous? Attention, hein. Dans plein de, pour plein de départements, la limite, c'est aujourd'hui. Hein. Déclaration d'impôt, là. Vous savez que la limite pour faire ta déclaration d'impôt revenu 2024, parce que c'est le revenu 2024. Sur papier, c'est dépassé depuis longtemps. Sur internet, c'est souvent dans beaucoup de départements. La limite, c'est aujourd'hui. Ok, ouais. Budget, la piste de l'année blanche. Comment on trouve des sous? Un gel des dépenses publiques pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros l'an prochain. Qu'est-ce que c'est une année blanche? C'est ça, c'est un gel des dépenses publiques. Mais cette mesure, évoquée par des élus du bloc central, s'annonce explosive sur le plan politique, syndicats et partenariats entrent dans le dur des négociations sur la réforme des retraites. Ok. Page 2-3. Alors, c'est quoi cette histoire? Donc, qu'est-ce qu'une année blanche? C'est un gel des dépenses publiques. Voilà. Mais ça veut dire que certains trucs ne seraient plus indexés sur l'inflation, donc ça pourrait être jusqu'où on va, les retraites. Voilà. Ah putain de merde, les impôts, j'avais zappé. Je suis aussi là pour ça, babinite. Faudra-t-il une année blanche budgétaire et fiscale pour rattraper les années noires qui ont précédé? Alors que le gouvernement reste mystérieux sur la manière dont il entend l'année 40 milliards d'euros l'an prochain
pour amener le déficit à 4,6% du PIB, ce qui est déjà beaucoup. L'idée d'un gel des dépenses, voire aussi des barèmes fiscaux, revient avec assistance chez de nombreux responsables politiques. Certains ministres estiment que c'est inévitable. L'année blanche, qui consiste à figer les dépenses à leur niveau de l'année précédente, aurait le double avantage de faire porter l'effort sur tous les Français et de produire un rendement significatif. Voilà. Il faut bien essayer de trouver des choses faisables. En gelant, on essaie au moins de bloquer la machine infernale, résume le sénateur Hervé Marseille, qui défend cette année cette idée depuis plusieurs années. Voilà. Alors, estimation. Selon les estimations, le niveau de l'inflation aussi et les modalités retenues, une telle mesure pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros. Un gel de la valeur de la dépense de l'État générerait 10 milliards d'euros d'économies. Celui de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, jusqu'à 6 milliards d'euros. Celui des prestations sociales, parce que du coup, ce serait gelé aussi. Hein. Le barème n'augmenterait pas. Ce serait 7 milliards d'euros. Voilà. Et le gel des ressources affectées aux collectivités, près de 4 milliards d'euros, soit total de l'ordre de 25 milliards d'euros. Voilà. Sauf que, comme certains économistes voient que l'inflation n'est pas très haute, ils estiment que ça rapporterait peut-être moins, genre 17 milliards d'euros. Voilà. Voire 15. Un mec qui va nous dire dans un instant 2, quoi. Alors ça, c'est pour la théorie. Dans le détail, il n'est pas certain que l'idée d'une année blanche résiste à l'épreuve du feu politique. Il y a l'idée, puis après, il y a ce que vont dire les parlementaires, et les partis, et les syndicats, et les lobbies, et tout le monde, et les retraités, etc. Une année blanche ne peut jamais être totale. Il faut regarder tiroir par tiroir. Il y a forcément des exceptions politiques à discuter, notamment pour les plus modestes, par exemple. Vous n'allez pas bloquer la revalorisation des allocations aux adultes handicapés. Par exemple. J'adore. Excusez-moi, je vais être gentiment méchant. Souvent dans ce débat, donc là on parle de 40 milliards d'euros à trouver, il y a toujours quelqu'un, plusieurs fois même, qui vient dire « Ouais ben, il faudrait d'abord commencer par baisser le salaire des ministres. » Ça, c'est l'équivalent en France de alors vous dénoncez ce qui se passe contre les Palestiniens, mais alors les Havres, ils sont où les gens pour parler des Ouïghours? Mais pourquoi vous parlez pas aussi de ça? Comme ça on fait plus rien, c'est le même. Hein, alors faisons ça. Bon, alors je sais pas, imaginons on va prendre un énorme gouvernement de, c'est moins que ça, mais on va prendre je sais pas, 60 ministres et secrétaires d'État, bon, disons 60. Ils sont moins, mais prenons 60. Ok. On va baisser radicalement leur salaire. Ok. On va baisser radicalement leur salaire. On va dire qu'on va leur enlever, je sais pas combien ils gagnent, moi. On va leur enlever 5000 balles par mois. Hein. Ou plus, ou je sais pas combien. Je sais pas. Parce que ça paye pas très fort. Mais on va leur enlever 5000, ça va? Vous voulez qu'on enlève plus? Vous voulez qu'on enlève plus? Vous voulez plus? Non, Reaper, tu connais pas les salaires des ministres. Vous voulez qu'on aille voir les salaires des ministres? C'est pas fou. Hein. Voilà. Bon, grosso modo, voilà, quelqu'un me dit entre 10 et 15K. Ouais, c'est ça. 16 000 euros pour le président de la République et le Premier ministre. Hein, 10 700 pour les autres ministres. Voilà, 10 200 pour les secrétaires d'État. 7600 pour les députés et sénateurs. Voilà. Quelqu'un me disait, si tu enlèves 5000 par mois, c'est que dalle par rapport à ce qu'ils gagnent. Bah 5000 par mois, c'est la moitié. Eh ben oui, faut aller voir, faut aller chercher. C'est pas compliqué. Alors, donc, pour quelqu'un qui gagne 10 000, je lui enlève la moitié, je lui enlève 5000. D'accord. Et on dit qu'ils sont 60. Donc c'est 60 fois 5000. Voilà. Économie 300 000 euros. Bon, on peut du coup, on économise aussi des charges sociales. On va faire x2. 600 000. Alors nous, ce qu'on veut, c'est 40 milliards. Attends, j'arrive même pas à écrire 40 milliards. Ça, c'est 4 millions. Ça, c'est 40 millions. 400 millions. 4 milliards. 40 milliards. Bon, bah, mon téléphone est trop petit. Voilà. Oui, il faut 12, parce qu'après, c'est par an. 600 000 par 12. Mais bon, je suis lourd, hein, je suis large. Hein. Je te mets des charges sociales de fou et tout. Voilà. Ça fait 7 millions. Pour le gouvernement. 40 milliards. Donc, bon. Moi, je veux bien qu'on diminue par deux le salaire des ministres. Déjà qu'ils sont pas très très bons. Parce qu'en fait, la paye n'attire pas les meilleurs éléments. Pardon, je vais être un peu cash. Déjà qu'ils sont pas très très bons. Parce que la paye n'attire pas les meilleurs éléments. Parce que les meilleurs éléments, ils peuvent trouver mieux dans le privé, quoi. Si tu diminues leur salaire par deux, voilà, pour économiser 6 millions, alors qu'en fait, tu cherches 40 milliards, pas sûr que ce soit pas contre-productif, quoi. Et oui, bah oui, c'est plus compliqué que ça. Et déjà, le salaire n'attire pas les meilleurs. Hein. On va pas se voiler la face, quoi. Comme le dit Mix, on n'a pas déjà les chips les plus croustillantes du paquet. Donc revenons à nos moutons, puisque nous on est sérieux ici, on cherche 40 milliards d'économies. Voilà. On peut leur enlever un petit peu en vrai. Mais j'ai peur qu'ils soient encore moins bons, quoi. Alors du coup, les gens disent, oui, mais alors du coup, allons voir du côté des sénateurs. Bon, et ainsi de suite. Voilà. On peut le faire, mais ça ne suffira pas. Et ce sera très loin de suffire, et ce sera que dalle. Mais on peut le faire pour l'exemple, bien sûr. Bon, après, sur le niveau déjà très très bas de cette classe politique, j'ai peur que ce soit encore pire. Mais bon, peu importe. C'est pas notre débat, c'est pas assez. Donc, voilà. Donc, on a dit année blanche, pourquoi pas, mais il y a des trucs qu'on peut pas, par exemple, arrêter de... Il y a des prestations pour les personnes handicapées, par exemple, si on enlève l'indexation de l'inflation, c'est pas possible. Voilà. Donc, du coup, une année blanche généralisée semble exclue à Bercy. En raison de l'inflation, de l'augmentation tendancielle de certaines dépenses de santé, de retraite, de la charge de la dette, le ministère des Finances est déjà résigné à ce que le total de la dépense publique augmente l'an prochain en valeur. Alors on pourrait aussi baisser, geler, à des blanches, les dépenses des collectivités locales. Mais on est à un an des municipales, donc ça va râler. Alors, il y a une autre source d'économie. Amélie de Montchalin n'exclut pas une année blanche sur les prestations sociales. Allez, hein. Est-ce que les pensions de retraite, par exemple, vont vivre une année blanche, c'est-à-dire pas d'indexation sur l'inflation? Donc, source d'économie potentiellement importante, jusqu'à 25 milliards d'euros sur 40 qui nous manquent, mais on voit que politiquement, c'est assez compliqué. Oui. Donc, c'est ça le problème avec la politique, c'est qu'il y a les yaka faucons hein, au café, là, bah, c'est simple en fait, moi je sais comment trouver de l'argent. Et puis qu'après, quand on se rend compte, quand on se penche un petit peu sur comment on fait, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué. Waouh, c'est quoi ça? La liste noire des défis français selon Bruxelles. Oh là là. Oh là là, encore des mauvaises nouvelles. Le coût du fonctionnement des ministères et autres, c'est 4 à 5 milliards. Mais Roulion, t'as raison, on va fermer les ministères. C'est une bonne idée. On économise 4 à 5 milliards. On laisse un président. Voilà. On supprime les députés et sénateurs, imagine l'économie. Tu mets un président, on va changer son nom par contre, on va l'appeler dictateur, ça va être plus simple. Un seul mec, il décide de tout. On met une IA, t'économises le salaire du président. C'est pas con. On peut aussi supprimer l'État aussi, hein. Un roi, il risque de sucrer plus. Hein. Alors je vois, un roi, ça marchait mieux quand même. Il risque de sucrer un peu plus. Hein. Et LBK Jackson qui intervient dans ce débat, en essayant lui aussi d'apporter un élément de réflexion de, pour avancer sur ce sujet un peu compliqué, qui me demande, est-ce que tu connais l'Orient ? Non. Je ne connais pas l'Orient. Mais c'est sûrement très joli. Alors, bon, ça va les impôts. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Alors, on a parlé de racistes, de Proche-Orient, des impôts. Continuons. Avec quoi ? Est-ce qu'on a du un peu plus léger, là ? Est-ce qu'on a du un peu plus léger ? Je cherche mon numéro 5. Voilà à quoi ça ressemble, les petites notes du matin de Papy. Oh oui, bon, vite fait la TNT. Bon, le changement de numérotation des chaînes de la télévision numérique terrestre. Ok, bon, c'est la une du Parisien. Je me suis dit que c'était la une du Parisien. Peut-être que les gens que ça intéressait. Bon. Hein. Tout savoir sur la nouvelle numérotation. Bon. Cette nuit, la nuit prochaine donc, une dizaine de chaînes vont changer le canal sur la TNT. Une nouvelle chaîne, T18, qui va apparaître. Voilà, bon. Bon, ça, il y a un édito, bon, on s'en fout. Le nouveau Big Bang de la télécommande. Alors. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Là, votre télé aura changé. Les acteurs de la TNT vont organiser la discrète mise à jour de la numérotation des chaînes. J'ai un chat à la gauche. On s'en fiche, dit Lucia. Moi aussi, en vrai. Mais je me suis dit peut-être que ça irait, que ça va intéresser. La télé, c'est quoi ? Il y a un petit message de Saloukai qui est trop mignon. Est-ce qu'on peut tous envoyer un petit message à Monique, s'il vous plaît ? Qui est un des plus beaux des prénoms, un des plus beaux prénoms qui soit, c'était celui de ma maman. Et c'est le cas, il nous dit, salut Samuel Etienne, ma mamie vient de perdre son mari, mon grand-père, et est en train de regarder ton live. Peux-tu, s'il te plaît, lui faire un petit coucou ? Elle s'appelle Monique, merci. Est-ce que vous pouvez tous envoyer un petit coucou à Monique, un petit cœur ? Voilà. Je sais que vous allez le faire. Je vois un passe une bonne journée Monique, je vois une pensée pour Monique, on l'aime tous et toutes. Je vois des saluts Monique. Je vois des coucou Monique. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci. Voilà, Monique. Nous sommes avec vous dans cette, dans ce moment que vous vivez, que vous traversez, qui est certainement très très difficile. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, puisque je vois que vous avez un petit-fils ou une petite fille, enfin quelqu'un de votre famille à vos côtés. Déjà, ce qui est formidable. Et que nous même si c'est de façon très distante, nous nous associons à la peine qui est la vôtre. Voilà. Bon, je pense que ça défile très très vite, parce que les gens sont trop gentils ici, mais vous aurez l'occasion de relire peut-être ces petits messages. Monique, cœur sur vous. Donc, je reviens à mon histoire de TNT. Alors, on n'est pas ici, on n'est pas très, quand on est sur Twitch, en général, on ne consomme pas trop la télé, donc ça ne nous passionne pas trop, mais bon, il y a quand même des millions de Français qui regardent la télévision tous les jours. Donc, ça va changer les numéros, et puis il y a une nouvelle chaîne, T18, qui arrive, et une nouvelle, Novo 19, c'est la chaîne du groupe Ouest France, qui va arriver plus tard, en septembre. Un mini Big Bang. Pourquoi d'abord un tel changement ? Bah ouais, bonne question. Il est la conséquence directe, ce changement, des disparitions de C8 et NRJ 12. Et qui ont dû rendre leur fréquence en février pour décision de l'ARCOM. En représailles à la mort annoncée de la 8 qu'il détenait, le groupe Canal+ a ensuite décidé de rendre son numéro 4 historique. Canal, ils ont dit, moi je veux plus être sur la TNT, c'est comme ça. Merci Gaspacho pour le 4e mois. Merci Cacahuète Frigide pour le 14e mois. Merci Jolou. Merci. Et donc le numéro 4, il a été rendu. Moi je boude, a dit Canal. À cela s'ajoute le choix du régulateur d'accueillir deux nouveaux diffuseurs, donc T18 et Novo 19. Voilà. Alors, qui va où ? Alors, c'est parti. Il y a une dizaine de mouvements. TF1, France 2, France 3, M6, ça bouge pas. France 4, bah, on prend la place du numéro 4 de Canal+. Alors ça, pour France 4, c'est une énorme exposition. Parce qu'on sait que mécaniquement, plus ton numéro est petit, plus il est haut, eh bien, plus ça te donne un boost à l'audience. C'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, on va pouvoir le mesurer, c'est très intéressant. Est-ce que la place dans la numérotation est un booster? Alors moi, à une époque où on n'avait pas les box, les trucs, on avait juste la télécommande 1, 2, 3, 4, tout ça. Voilà. Donc moins, mais peut-être encore sûrement. Donc pour les chaînes en haut, ça change pas. France 4 arrive sur la 4. Les 4 chaînes info sont regroupées. Hein. Avant, vous aviez BFM et CNews, je crois, qui était assez haut, et LCI France Info beaucoup plus bas. Ouais, c'était compliqué. Bon, bah là, tout le monde est regroupé. 13 et 14 pour BFM et CNews, et LCI France Info 15 et 16. Voilà. Avant, c'était 15, 16, 26, 27. Voilà. 15, 16, 26, 27. Et maintenant, c'est 13, 14, 15, 16. Est-ce que la numérotation des chaînes a une influence sur l'audience? Si on voit dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, l'audience de LCI, de France Info augmenter, ça montrera que ces chaînes ont été impactées négativement par leur numérotation précédente. Ce sera très intéressant. Voilà. Sur la 8, donc il n'y a plus la 8, il n'y a plus TPMP, il n'y a plus les nouilles dans le slip, tout ça. Maintenant, ce sera les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat. Le 12 de l'énergie, ce sera pour Gulli, la chaîne jeunesse de M6. Voilà. Voilà, y aura-t-il des coupures? Bon, normalement, ça devrait marcher leur histoire. Voilà. Parce qu'il y aura un bug, bon, ça va. Alors, c'est quoi les nouvelles chaînes qui arrivent? À quoi s'attendre pour T18 et Nouveau 19? Ce vendredi à 19h45, Laurent Ruquier va donner le coup d'envoi de T18, hein, qui ambitionne de jouer dans la cour des grandes. Ce D-Day, ça fait des mois que l'attendent les équipes de CMI Media, qui est derrière cette chaîne. Hein, le groupe de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, qui déjà est le propriétaire du magazine Elle, ou de T7 Jours. Je vais vous parler de West France dans un instant, soyez pas impatients, bordel de nouilles. L'été dernier, ils ont réussi à convaincre l'ARCOM de leur permettre de lancer leur chaîne généraliste. Hein, celle-ci fera la part belle au documentaire, avec pas moins de 3000 heures par an, deux primes par semaine, le lundi et le vendredi, deux soirées cinéma, voilà. Voilà, c'est une chaîne, on va dire, documentaire, culture, info aussi. Donc on aura chez Ruquier, Laurent Ruquier, chaque samedi à 20h, et surtout, tous les soirs à 22h30, un débat sur l'actualité. Voilà. Avec le journaliste Mathieu Croissondeau. Le débat s'appelle, l'émission s'appelle Pour tout dire, et il aura trois actualités et des invités, et il fera un débat sur l'actualité du jour. Voilà. Alors l'autre chaîne, Nouveau 19, la chaîne du groupe Ouest France, faudra attendre le 1er septembre parce qu'ils sont pas prêts, ils ont dit on a besoin de plus de temps. Le groupe Ouest France a voulu se laisser du temps pour lancer cette offre inédite qui contiendra un JT de 15 minutes, conçu avec les journalistes de Ouest France, et surtout une émission d'actualité sur ce qui intéresse les gens et les impacte le plus. Alors qu'est-ce que c'est une émission d'actualité sur ce qui intéresse les gens et ce qui les impacte le plus, je ne sais pas, mais ils vont le proposer. Voilà. Présenté par Claire Arnoux, qui vient d'une chaîne sportive qui s'appelle Bein Sport. Claire, voilà. Ça c'est Ouest France. Ce sera la rentrée. Au canal, c'est plus sur la TNT. Maintenant, il faudra aller sur satellite, tout ça, quoi. Voilà. Alors, bon, on va pas y passer 10 heures. Tiens, il y a une promo sur la viande sur l'Intermarché. Vous en pensez quoi, vous? On a des nouvelles du prochain présentateur du 20h de France 2? Non, Lazarette, non. Les rumeurs disent que c'est... comment ça s'appelle? Caroline Roux. Spécialiste de politique. Je pense ne pas avoir allumé une télé depuis minimum 5 ans. Je ne vis plus chez mes parents. Je m'en passe totalement, me dit mes figues. Ou peut-être toi, mystère, aux 20h de France 2. Moi, aux 20h de France 2. Attendez, moi, aux 20h de France 2. Ça voudrait dire que j'aurais été préféré à tous les gens talentueux capables de faire du JT en France. Ça voudrait dire que je me passerais tous les soirs, de Valo, de GTA, de Call of Duty, de Heavy Rain, de Age of Empire. Hein? Pour le bien de la nation. Sauf si tu streams pendant le JT. Non, non, il y a des gens bien plus talentueux que moi pour faire ça. Et puis en plus, ça m'intéresse pas. Le 20h de FR2, c'est quand même une petite concrétisation. C'est quoi le mot d'ailleurs? Parce que du coup, j'arrive pas à trouver le mot. C'est une certaine convalescence. Consécration. Jeune journaliste, je le pensais. Non, pas constipation. Pas conspiration, pas concombre. Jeune, je l'aurais pensé. Parce que je ne connaissais pas grand chose. Et puis, bon, j'aimais bien présenter des infos. Donc, je me dis, si un jour je fais un 20h, c'est la classe quand même. Mais après, j'ai découvert qu'il existait d'autres choses. Bien plus sympa. Donc, oui, jeune, j'ai pu le penser. Ouais. Tout à fait. Oh, ça m'appelle, ça me harcèle. Ça laisse des messages. Attends, je vais écouter le message. C'est très rare les gens qui laissent des messages au téléphone maintenant. Attends, je vais couper le micro. Peut-être un paquet, ça, je rappelle. Et je vous rappelle, merci. C'est un livreur et il dit qu'il n'y a personne à la maison, mais il y a quelqu'un à la maison. Donc je fais le go-between. J'arrive. J'arrive. Il devrait y avoir quelqu'un à la maison qui n'est pas là. Excusez-moi, petites affaires domestiques. Comment on dit un paquet en anglais ? Package, parcel, ouais, parcel plutôt. Hein. Ouais. désolé, je me dis que c'est un paquet important. C'est sûrement pour mon épouse. Hein. Moi, je reçois jamais de paquet, moi. Je reçois que des impôts, moi. Que des factures, que des impôts. Mais bon, la personne n'est pas à la maison, c'est quand même bizarre. 13h41. Les enfants, ils ont cantine aujourd'hui. Bon. We have a package from Riot Game for you, Mr. CH. Bon, ben, je crois que le paquet, il va pas... C'est pas la Switch 2, parce que la Switch 2, je vais aller la chercher. Pauvre monsieur, qui avait l'air très sympa, d'ailleurs. Bon, tant pis. Sam, t'es content de payer des impôts ? Oui, oui, je suis un petit peu con, moi, je suis content. J'ai remarqué que plus je gagnais bien ma vie, plus je payais des impôts. Donc, je suis un peu bêta, moi. Du coup, je suis content. C'est rare d'y voir qui appelle. Oui, c'est pour ça que le mec est très sympa, en vrai. Tu sentais plein de bonne volonté. Je lui dis, il y a quelqu'un à la maison, mais la personne n'est pas à la maison. C'est très étrange. C'est pour ça que le mec me semblait volontaire. Je voulais être gentil, quoi. J'aimerais bien en payer. Voilà, Tabs. Mais tu as raison. Ça dépend où ils habitent. À la campagne, ils appellent chaque fois. Perso, c'est cool, ça. Ouais. Bon, la TNT, j'ai vu que ça avait super hypé. On continue. Je suis content d'en payer car mes parents étaient non imposables. Mais je suis pas content de l'utilisation de l'argent public. Clabakin X-Back, je comprends ça. Bien sûr. Ma boîte aux lettres doit être trop petite car à chaque fois ils me disent que ça rentre pas. Ah oui, c'est un classique, ça. Ok. Bon, en tout cas, France 3, c'est toujours sur France 3. Enfin, oui, l'information importante de ce stream, c'est ça. C'est que France 3, c'est sûr. France 3. Et Question pour un champion, c'est sûr, Question pour un champion. Et c'est toujours à 18h10. C'est toujours la meilleure émission du PAF. Voilà. Du monde, même. De l'histoire de la télé. C'est animé par un BG. Et c'est tous les jours à 18h10 sur France 3. Voilà. C'est l'information essentielle de ce papier. Qui n'y figurait pas d'ailleurs. C'est un peu étrange. Ils ont quand même oublié l'essentiel. Ok. Ceci est 18h10 tous les jours, même le dimanche, bien sûr. Voilà. France TV maintenant, plus France 2, France 3, on s'en fout, Camille, ça. France 3, c'est toujours sur la 3. Hein. Ouais, les trucs, là, bla, bla, bla. On s'en fiche. C'est sur France 3. De toute façon, c'est question pour un champion. C'est la masterclass. Alors, c'est là qu'on parle de jeux vidéo maintenant ou pas ? Ce serait bien. Alors, attends, Parisien TNT, 6. Ah, Ubisoft d'abord. Ah, les soucis chez Ubisoft. Enfin, pour les anciens d'Ubisoft. Avant de parler de Switch 2, du prix du jeu vidéo, tennis, on parlait de tennis aussi tout à l'heure, on va parler de ce procès en cours là. C'est l'humanité qui nous en parle ce matin. Voilà. Et oui, parce que je vous en avais parlé à l'époque, de ce procès des anciens d'Ubisoft, voilà. Pour harcèlement sexuel notamment. Voilà. Et le procès, il est en cours, et l'humanité nous en parle. Voilà. Pom, pom, pom. C'est le même procès, Étienne, sauf que là, il a lieu, exactement. Pas encore, c'est le même. C'est le même. Ouais. Ubisoft et Souci, c'est une marque de fabrique, me dit Babysis. Eh oui. Alors, l'intolérable culture Ubisoft. Après le témoignage de plusieurs victimes, ce sont les ex-cadres, hein, sont les anciens salariés du géant français du jeu vidéo, poursuivis pour harcèlement moral, sexuel, tentative d'agression sexuelle, qui ont été longuement interrogés par les juges. Ça se passe au tribunal de Bobigny. Les victimes présentes se serrent littéralement les coudes. Elles écoutent avec émotion les prévenus, qui sont trois anciens cadres d'Ubisoft, dont l'ancien numéro 2 du groupe, quand même, nier leur témoignage, remettre en question les récits d'humiliation, de harcèlement moral et sexuel, de remarques racistes, sexiste, homophobe, catalogue, tentative d'agression sexuelle qu'elles ont livrée à la justice. Pourtant, vaillamment, les plaignantes, parce que manifestement ce sont essentiellement des femmes, sont là. Ah, vous n'avez pas la scène. pardon, chaque jour, pour répondre aux demandes de précision des juges. Un jour, j'inventerai des articles comme ça. Et je ferais mieux de ne pas mettre la scène. En fait, j'inventerai totalement. Un jour, je vais être vieux et fatigué. Voilà. Et en fait, à la place de vous lire des articles, je vais les inventer. Je vais raconter des trucs complètement inventés, mais je ne vous mettrai pas la scène. Parce que si je vous mets la scène, vous verrez qu'il n'y a pas d'article. Voilà. Et un jour, je ferai mes revues de presse comme ça. Donc, dans le Figaro, il y a un article qui est quand même incroyable. Et j'inventerai des trucs comme ça. Voilà. Et ça, c'est beau. Ce serait incroyable, ça. Voilà. Le jour où vous me voyez faire une revue de presse intégralement. Sur ma tête, sans vous montrer les articles, c'est que je suis passé de l'autre côté. Quoi. Oh oh, attendez. Des nouvelles du paquet. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Manon, elle était bien à la maison pourtant. Ah, on a le paquet. Oh! Just arrived from school. So I saw him in the street. And asked if he was a package. The man said he was ringing the bell and no one responding. Oh, great. Donc, we have the parcel. Donc, j'ai bien fait de faire le go-between. Nous avons récupéré le paquet. De toute façon, c'est pour mon épouse. Hein. Le paquet, c'est pour... Voilà. Voilà. Mission accomplie. De parcelle e-secured. Donc, je reviens à Ubisoft, moi. Donc, les plaignantes sont là chaque jour pour répondre aux demandes de précision des juges. L'instruction s'est appuyée sur une soixantaine de témoignages, dont les leurs, qui ont décrit le fonctionnement toxique d'un boys club qui abusait de sa toute puissance dans l'open space du pôle éditorial d'Ubisoft. Merci Draconian, merci pour le soutien, merci Caspacho. Merci Cacahuète Frigide, encore une fois. On s'amusait. C'était la culture d'Ubisoft, explique à la barre le premier prévenu, Tommy François, ancien vice-président quand même du pôle. Le credo, c'était qu'il fallait être fun pour créer du fun. Vous allez voir le fun. Il fallait s'inscrire dans cette ambiance pour ne pas être exclu. Tout se justifiait donc par la blague pour relâcher la pression. Les batailles d'eau dans l'open space. Ligoter ses subordonnés sur leur chaise et les envoyer dans l'ascenseur. Leur barbouiller le visage de feutre en réunion. Leur interdire d'aller se nettoyer. Faire des chabites. Un petit chabite. Un petit chabite pour l'ambiance. Demander de faire le poirier à une assistante en jupe. Une assistante en jupe qui, quand elle venait en jupe, régulièrement lui demandait de faire le poirier. Plusieurs fois. Ouais. C'est documenté tout ça. Embrasser sur la bouche le plus de collègues possible. Hein, un petit jeu. Allez, pour l'ambiance, pour le fun. Eh oui. Voir ces quinquagénaires bourgeois se justifier devant les juges de regarder des films pornographiques au travail. Mais bien sûr. Un petit film porno sur le PC avec le son à fond. Tant qu'à faire, pour l'ambiance. Ou de mimer des pratiques sexuelles en réunion. Parce que c'est important dans le processus créatif d'un jeu de vidéo d'aventure. Restera une image que l'audience n'oubliera pas de sitôt. Attends, bon là, on a fait le plus chill. Quant aux insultes quotidiennes, morue, bitch, gros pédé, gros bâtard, oui, c'était le vocabulaire d'Ubisoft. Mais reconnaissez que c'est différent lorsqu'on le dit avec le sourire, argumente Tommy François. Une plaignante d'origine égyptienne, supposée musulmane par les gens d'Ubisoft à l'époque, a vu son fond d'écran remplacé par des photos de cochons ou de bacon. Après le Bataclan, on m'a demandé si je partais rejoindre Daesh. À l'arrivée d'un collègue au nom à consonance juive, Tommy François lui a jeté des pièces par terre en lui disant « Tiens, t'es juif, t'aimes l'argent. »« Oui, » répond-il. La défense est quand même d'un niveau stratosphérique. Mais déjà, j'ai plein d'amis juifs. Et en plus, c'est une blague en référence à Borat. Mais je comprends que quand on n'a pas le contexte, qu'on n'a pas vu le film, bah forcément, si on n'a pas la ref, c'est défendu l'intéressé. Tout était blague, et le fait que seuls les hommes en position... La phrase est une masterclass. Écoutez, tout était blague et le fait que seuls des hommes en position hiérarchique élevée en riaient ne les a pas effleurés. Aïe. Eh oui. Et les blagues ne venaient que, de, que des hommes de dirigeants. À aucun moment ils se sont dit. Ouais. Okay. À la barre, Tommy François, se confond, que je n'ai jamais croisé, mais qui a l'air d'être un garçon intéressant, se confond toutefois en excuses. Il assure qu'il n'a jamais voulu faire mal. Je réalise que ce qui paraissait normal dans la culture d'Ubisoft à l'époque est aujourd'hui inacceptable. Selon les conclusions de l'enquête interne réalisée en 2020 suite à l'éclatement du scandale grâce à Libération, merci les journalistes, et au site Numérama, ce Boys Club s'épanouissait sur la tendre supervision de Serge Ascouette, numéro 2 d'Ubisoft. Voilà pourquoi, comme prévenu, il est aussi soupçonné de complicité. Selon sa prévention, il protégeait les auteurs et faisait régner un environnement de travail insécure, propice au harcèlement. Une plaignante a ainsi expliqué que le premier jour, que lorsque Tommy a essayé de m'embrasser de force, on ne lui a pas dit que c'était mal, mais qu'il n'aurait pas dû le faire parce que c'était l'assistante de Serge. Ah bah non, pas l'assistante de Serge. Enfin Tommy a... Non, c'est François ou c'est Tommy d'ailleurs? Tommy. Pour certains, il était un tyran pervers, pour d'autres, un dieu. J'ai contribué de près et de loin, enfin surtout de près, à toutes les belles réussites d'Ubisoft ces 30 dernières années, se présente-t-il. En préambule, à la barre, en toute modestie. La veille, son ancien subordonné, Tommy François, le qualifie avec emphase de génie créatif, toujours prêt à penser de manière orthogonale pour challenger les princesses, les process. Du haut de ses 52 000 euros mensuels, il estime que les histoires de management, c'était géré par d'autres. Il nie tout, ne se souvient de rien, n'a rien vu, c'est le numéro 2 donc. Hein. Venant d'un milieu modeste, il juge impossible qu'il ait dit par exemple « Je ne parle pas aux petites mains ». J'ai aidé tout le monde, je protégeais tout le monde, assure-t-il. Mais lorsque les juges, au mot de Baker, avocat des parties civiles, évoquent les témoignages de nombreux assistants de direction qui sont succédés sous ses ordres, comment vous dites ? Non vraiment, je ne la remets pas. Une Laura ? Impossible de me souvenir non plus. Le mec ne se souvient de personne. Enfin surtout des femmes avec qui il bossait.
Comme c'est étrange.
Un jour en réunion, Serge se mouche, dit une plaignante, et me tend son mouchoir sale en me disant « Tiens, tu peux le revendre à Ubisoft, ça vaut de l'or. » D'un coup, les témoignages décrivant le prévenu comme hautain, qui ne remerciait jamais les femmes, ne se souvenait jamais de leur prénom, ne disait que « Bonjour, messieurs », en entrant en réunion, a gagné en crédibilité. Le vernis qui entourait le créatif s'est encore un peu plus effrité quand l'énumération de ses remarques sur la taille de son sexe, sa capacité à faire jouir ou sur les hormones féminines a marmonné « Je ne suis pas quelqu'un de lourdingue, je voulais rendre service, partager mes connaissances. » C'est pas un sketch, c'est tout ça vraiment existé. Une salariée des ressources humaines a versé au dossier une anecdote qui l'a fortement agacé. Elle raconte que lui et Tommy sont passés devant les bureaux du service RH faisant mine de se donner des fessées tous les deux, en rigolant et en criant « Harcèlement ! Harcèlement !» Les accusés parlent... Non, j'en peux plus. Ah voilà, bon voilà, vous avez l'essentiel. Bon, c'est pas foufou quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui se passait à l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui, ces gens ne sont plus chez Ubisoft, hein. On attend le jugement. Non, il bossait le frigo. A-I-E-N-T, pas il bosse chez Ubisoft. Ouais, c'est important quand même. Voilà. Quelqu'un me disait tout à l'heure que dans cet univers, ça arrivait. Hein. Voilà. C'est mal, mais je suis morte de rire depuis le début de l'article, me dit Miniman. Bah oui, c'est un peu... Ouais. Babadit me dit si j'avais bossé dans ce genre d'ambiance, je me serais retrouvé aussi devant un juge, mais pour une autre raison. Tekudis nous dit si je peux me permettre, tu peux, je vous recommande un livre, Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, de Léane Alestra, qui dénonce ses boys clubs et décortique le comportement de ce type d'homme trop normalisé. C'était super intéressant, on peut reconnaître des patterns chez nos amis, chez nous ou même notre famille. Très intéressant. Est-ce que ça doit nous mener à boycotter tout ce studio, demande l'eSpot Live? Bah non, je pense pas. Parce que le moment où ces gens ne sont plus chez Ubisoft. Non. Hein? d'origine impuveuse dit non, mais ils l'ont été, et comme d'habitude, la direction n'a rien fait. Les équipes ont beaucoup changé, me dit Bafti. Les jeux restent pas ouf, mais il y a eu un gros tri. Bonjour, nageoire. Voilà. Bon, les amis, enfin, la Switch 2. Moi, je suis au courant de rien sur cette histoire. Il y a plein d'articles sur la Switch 2, plein d'articles. Alors, attends. Là, on était sur Numa, donc numéro 6. On voit notamment le Figaro. Il y a des articles de partout. Page 31. Alors, qu'est-ce que c'est ces Switch 2, là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas, moi. Figaro, mais on va lire Le Monde aussi. Va tout le monde, Les Échos. Après le lancement de sa console Switch 2, Nintendo joue gros. Le groupe rêve de réitérer le succès du premier modèle, qui fait sa fortune depuis 2017. Le prix polémique et l'ombre des droits de douane de Trump assombrissent le tableau. On va voir ce que vient faire Trump dans cette histoire. Nintendo fait rugir les moteurs avant le top départ. Ce jeudi 5 juin, c'est aujourd'hui, donc le groupe japonais commercialise sa nouvelle console, la Switch 2, escortée d'un nouvel opus de la très populaire série de jeux de course Mario Kart. L'enjeu est massif, cette machine succède à la Switch première du nom, qui s'est vendue à 152 millions d'exemplaires en l'espace de 8 ans, permettant de jouer à la fois sur une télé et en mobilité. Cette console est à un cheveu d'être le plus grand succès de l'histoire de l'entreprise. Voilà. Prendre la suite de la Switch 1 n'est pas chose aisée, alors que 90% des revenus du groupe reposent sur ses activités dans le monde du jeu vidéo. L'entreprise née au 19e siècle, fabricante, on va le rappeler, à l'époque de cartes à jouer, a opté pour une prise de risque minimaliste. La Switch 2 est en tout point similaire à sa grande sœur. La puissance en plus. Un point cependant la distingue, sa grille tarifaire. Boy, 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 boy. La Switch 2 a un prix de vente conseillé de 470€ contre 330 pour son aîné à son lancement. Le tarif des jeux également enflé, flirtant avec les 80 boules pour les productions les plus ambitieuses. Boules, c'est moi qui dis. Voire 90€ pour le Mario Kart World en version physique. Est-ce que ces prix vont freiner les ardeurs des consommateurs? Cette crainte a été rapidement balayée. La Switch 2 sera la console la plus vendue à sa date de lancement chez le réseau Fnac Darty, révèle au Figaro la directrice gaming du distributeur. Nous avons été très vite satisfaits, dit-elle, du niveau de précommande qui n'a cessé de grimper au fil des semaines. On sait déjà que 2025 sera une très bonne année pour le jeu vidéo. Les autres enseignes contactées par le Figaro se disent également satisfaites. Aucune alerte sur les stocks n'est à l'horizon, contrairement à ce qu'ont vécu les revendeurs fin 2020 avec la PS5 de Sony. Voilà. Nintendo ne s'attendait pas à une telle demande sur ce produit, il pourrait y avoir des risques de rupture même sur les accessoires, comme la caméra permettant de se filmer en jouant en ligne avec ses amis. Les joueurs français sont chanceux. La grande distribution a multiplié les promotions en abaissant de plusieurs dizaines d'euros le prix de vente conseillé de la Switch 2 et de ses jeux. Voilà. Il y a aussi des offres de reprise de consoles d'occasion du côté de Micromania ou de la Fnac pour faire baisser la facture. Ailleurs dans le monde, le prix de vente conseillé par Nintendo a été suivi à la lettre par les revendeurs et cela n'a pas empêché un raz-de-marée de précommandes. Il y a de la rupture aux États-Unis sur les grands distributeurs. Au Japon, c'est très chaud aussi. 2,2 millions de Japonais ont tenté leur chance en précommande. Il y a 2,2 millions de Japonais qui ont essayé de l'acheter en précommande. Il n'y en a pas pour tout le monde. Waouh. Si la demande autour de la console est aussi forte, c'est parce que la Switch 2 n'est pas montrée comme une machine familiale, mais comme une console pour les gamers. Elle est moins chère au Japon, d'ailleurs. Note Charlotte Massico. La vidéo de présentation de la Switch 2 a ainsi insisté sur les performances technologiques de l'appareil. Lorsqu'on voit un tel engouement, c'est qu'on a touché ce public spécifique. Le véritable défi du groupe sera de convaincre sur le plus long terme, au-delà du cercle des gamers enthousiastes. Le prix de la console est plus élevé que la Switch 1. Nous savons donc qu'il ne sera pas facile de maintenir cet élan dans la durée. A reconnu le président de Nintendo. Ah, c'est là qu'arrive Trump. Mais un autre challenge de taille assombrit l'horizon. Nintendo a annoncé le 8 mai lors de la présentation de ses résultats annuels qu'il prévoyait de vendre 15 millions de Switch 2 d'ici mars 2026. Voilà. Un chiffre inférieur aux prévisions des analystes qui prévoyaient plutôt 17 millions. Mais il prend en compte l'incertitude née de la menace de Trump d'imposer des droits de douane massifs sur les produits exportés vers les États-Unis. Le coût des consoles de jeux vidéo pourrait flamber de 69% si Trump ne fait pas marche arrière. Parce que la console est fabriquée en Chine, au Vietnam, au Cambodge. Si à cause des prix des droits de douane, le prix des produits du quotidien augmente, alors les consommateurs américains auront aussi moins d'argent à consacrer aux jeux vidéo. J'ai l'impression que c'est pour le prix de la console aux États-Unis, on est d'accord. Parce que les barrières douanières que veut mettre Trump, c'est entre les États-Unis et notamment les pays asiatiques. On est d'accord que nous, on ne va pas être impacté par ça, si je ne dis pas de bêtises. On est d'accord. Ah, MMG, on est d'accord. On est d'accord. Salut, Sugar. C'est ça, hein. J'ai bien compris. Okay. Ok. Alors, il y a plein d'articles ce matin sur cette console, c'est fou. Ouais, et les États-Unis, c'est un gros marché, me dit Ascalaf. Ok, on est d'accord. Le monde en parle, le monde en parle. Le monde en parle. Page 15. Ouais. Ha, ha. Ouais. Tu vas l'acheter ? Je vais l'acheter cet après-midi. Tout à fait. C'est le lancement le plus retentissant, probablement le plus attendu dans l'industrie du jeu vidéo depuis le début de cette année. On rappelle que la Switch 1 est sortie en 2017. Âge vénérable pour une console de salon, dont le cycle de vie oscille généralement entre 5 et 10 ans. Donc 2017, 2025, c'est OK, quoi. Alors, Le Monde revient sur le succès de la Switch 1, format original, à la fois portable et de salon, qui a rapidement séduit les consommateurs, remis le géant du jeu vidéo dans la compétition mondiale de l'industrie vidéoludique. Conservant son ADN de console familiale, à la différence de ses concurrentes, la PlayStation de Sony, la Xbox de Microsoft, qui s'adressait davantage aux hardcore gamers. Voilà. Mais cette fois, Nintendo fait le pari d'aller empiéter sur le terrain de ses rivaux avec une machine dont les performances sont bien supérieures à celles de la Switch. Avec une puissance de calcul de 6 à 10 fois supérieure à celle de son aîné, et avec une meilleure qualité graphique, Nintendo va pouvoir ouvrir un peu plus son marché en s'ouvrant à des éditeurs tiers. Activision, Ubisoft... Monter en gamme, donc, dans un secteur plus premium. Et donc, c'est un coût. L'appareil sera donc vendu en Europe, prix conseillé 469,99 euros. Pareil qui peut paraître risqué s'il venait à rebuter les fidèles de la marque. Challenge, donc. En tout cas, Nintendo est optimiste. Pour soutenir le lancement, parce que vous vous posez la question, vous avez raison. Quel jeu ? Bah oui, quand même. Quel jeu ? Ah, justement, j'ai un petit mail. Ok. Ok. Oh, j'en ai des mails. J'en ai des mails. J'en ai des mails. Faut que je traite tout ça. Donc quel jeu ? Pour soutenir le lancement, le Nintendo va sortir un nouveau jeu populaire, Mario Kart World, et promet de nouvelles sorties d'ici à la fin de l'année. Le marché est libre, c'est le moment parfait, estime Charles-Louis Planade, aucune nouvelle console n'étant attendue à moyen terme. Reste à savoir si les éditeurs tiers vont jouer le jeu. Le parc de consoles installées étant inexistant au lancement, cela peut inciter les studios à attendre quelques mois avant de sortir le jeu ou de les mettre en chantier. Quelqu'un me disait tout à l'heure, mais pour quel jeu ? Mais pour Javier Molina, analyste marché, les voyants sont au vert, tous les grands revendeurs sont en rupture de stock, le marché veut clairement la console maintenant. Ok. Ok, c'est intéressant. Donc, il n'y a que Mario Kart actuellement ? Ben, je ne sais pas. C'est une question de Nila Mezzo, j'ai plein de consonnes. Il y a quoi comme, jeu, là ? À part le Mario, la carte, là ? Y'a quoi ? Y'a rien ?
Il y a les jeux, il y a les jeux Switch 1. Ah bon, on s'en fout. Il y a de la pub partout pour Cyberpunk. Il y a Donkey Kong. Il y a un bon Donkey Kong. D'accord. Ok. C'est le Mario Kart à 90 balles. Ok. Ah, pas encore, Kenny, il n'est pas sorti. C'est dans un mois. Attends, Oddworld Legacy 2, Street Fighter 6, c'est pas aujourd'hui ça. En fait, à part le Mario Kart, tu vas streamer le unboxing ? Non, je pense pas, non. Franchement, sortir du truc de la boîte, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est de jouer avec. Non, ce que je vais faire, c'est essayer de le connecter à mon PC cet après-midi, ouais. Pour faire un stream en fin d'après-midi ou ce soir, quoi. Ouais. Je vais essayer de faire ça pour voir si j'arrive à choper le jeu, là, le Mario Kart, quoi. Ok. Bon. Fais-nous du inboxing. C'est-à-dire que je me mets dans la boîte. Attendez, je suis pas très grand, mais je ne rentre pas dans une boîte de Switch 2. Hein. Tu as pris la console en pack avec le jeu, je sais pas trop ce que j'ai fait en vrai. Moi je ne fais pas de inboxing. Hein. Non. Non. Du beatboxing? Attends, j'allais faire du beatboxing. Hein. Fais un inboxing, je t'en supplie. Pour 1000 subs, là maintenant tout de suite, je vous fais un inboxing. Pas déconner. Ok, bon maintenant, réjouissons-nous. Réjouissons-nous de cette histoire incroyable. Pour cette championne, cette sportive française, j'ai nommé Loïs Boisson. Hein, une dinguerie. Voilà. C'est fou ce qu'elle fait, c'est beau, c'est magnifique. Allons voir l'équipe qui lui consacre sa une, qui lui consacre sa une. Loïs Boisson à toute allure. Rappelons l'histoire. Match dans 2 heures, me dit qu'il est 22. On parle du demi-finale, j'allais dire en Ligue des Champions. Non, à Roland-Garros. Grand chelem, mesdames et messieurs. Ouais. En 2-7, la Française détentrice d'une wild card, c'est-à-dire qu'elle a été invitée, hein, puisqu'elle n'avait pas le niveau mondial suffisant pour aller dans le tableau à Roland. Quoi. Voilà. Une demi pour Boisson, défécateur, l'équipe a titré hier une demi pour Boisson. C'est pas leur point fort. Voilà. En 2-7, la Française détentrice d'une wild card s'est offert une place en demi-finale pour son premier grand chelem, c'est beau. L'Américaine Coco Gauff. Latence cet après-midi, grande joueuse Coco Gauff. Voilà. Boisson à volonté. Oh, l'équipe. Voilà. Encore déroutante hier face à Mireia Andreeva, la 361e mondiale de 22 ans, ne nourrit aucun complexe. Et fonce cet après-midi vers la numéro 2 mondiale, l'américaine Coco Gauff. Pour jouer une place en finale de Roland-Garros, ce serait tellement beau. Une folie pour tout le monde sauf pour elle. Voilà. Elle a battu aussi Pegula, la 3e mondiale, bien sûr. Tout à fait. Vous pouvez battre une fois une membre du top 10 mondial en étant 361e joueuse mondiale. C'est très rare, c'est souvent le match d'une vie, mais ça arrive. Mais pas deux fois. Impossible. Surtout pour une première participation au Grand Chelem. Bon, à la grande limite, ça peut être jouable une deuxième fois. Et là, c'est le tournoi d'une vie. Mais pas trois fois, faut pas pousser. Enfin, quoique, qui le demande ? J'adore le journaliste, il est à fond. Le problème avec Loïs Boisson, c'est que les chiffres, les classements, les grandes phrases philosophiques, les livres d'histoire, tout ça ne veut plus rien dire. Alors qu'elle balançait ses gifles de coups droits dans l'anonymat des tournois de Saint-Gaudens, Saint-Malo, Rouen ou Mâcon, il y a encore quelques semaines, elle a décidé de tout envoyer valser devant 15 000 personnes sur le plus beau court en terre battue du monde, ce Philippe Châtrier qui effraie autant qu'il transcende. Bon, Philippe Châtrier, c'est vrai que c'est un sacré court. Où tout est plus grand, mais rien n'est trop grand. A commencer par les cadors, Jessica Pegula, 3e mondiale, finaliste dernier US Open, dehors en 8e de finale, lundi. Mira Andreeva, 6e mondiale, demi-finaliste à Roland-Garros l'an passé, merci pour tout, mais dehors hier en quart de finale. Et là, le plus dingue dans cette histoire, c'est la suite, Coco Gauff, 2e mondiale. Vainqueur de l'US Open en 2023, finaliste sur terre battue de Parisien 2022, se présente face à elle cet après-midi. Et c'est à se demander laquelle des deux est la favorite, laquelle des deux va craquer
et subir le poids des attentes de l'événement, c'est le monde à l'envers. C'est beau ça. C'est beau cette histoire, c'est beau cette aventure. Merci Oxponet. Merci Kamika Slide. Merci Draconian. L'univers parallèle gagne tout Roland-Garros. Le public se met à rêver d'une victoire française. Des journalistes américains viennent vérifier que Boisson est bien originaire de Dijon et qu'on n'y fabrique pas que de la moutarde. Le choc du dernier carré entre Iga Swiatek et Aryna Sabalenka passe totalement au second plan. On oubliera presque que Yannick Sinner et Carlos Alcaraz sont encore là. Boisson, Boisson, Boisson. Le premier qui dit à volonté, ça va chier. Ça s'emballe de partout. Sauf chez la principale intéressée. Les pieds assurément sur terre. La terre. Tout juste a-t-elle autorisé une célébration à la renverse hier pour que son dos y goûte un peu. Mais c'est pas tout. Pas de joie démesurée, pas d'émotion qui dépasse. Elle est dans sa bulle et c'est tant mieux qu'elle y reste le plus longtemps possible. Ici ou ailleurs, c'est pareil. C'est un match de tennis, glissait-elle hier, devant une salle de presse pleine à craquer. Mon rêve n'est pas d'atteindre la demi-finale de Roland-Garros, mais de gagner. Il est en train de nous dire que Boisson s'est renversé. Je valide. Parce que c'est toi, Defecator. Mon rêve n'est pas d'atteindre la demi-finale de Roland-Garros, mais de gagner. Je vais faire de mon mieux pour y parvenir. L'histoire dira donc samedi, en fin d'après-midi, si les rêves, même les plus fous, finissent par se réaliser. Quoi qu'il advienne, Boisson aura déjà montré face à Andreeva une force intérieure déconcertante, une faculté à se relever de tout sans jamais sourciller. Un calme bluffant pour une joueuse qui, plus jeune, avait un talent qui sautait autant aux yeux que ses accès de colère. Hein? Je crois qu'elle n'a pas été encadrée par la FFT pour cette raison, je crois. Elle était un peu de caractère. Accueillie sur le central par une Marseillaise qui l'a un peu déstabilisée, Boisson a eu besoin de quelques minutes pour entrer dans son quart de finale. Andreeva, n'ayant pas la réputation d'être patiente, ce tour d'adaptation lui a valu un break de retard. Ça ne l'était déjà pas face à Pegula lundi, ça ne le sera pas aujourd'hui face à Gauff. La Dijonnaise n'est plus un retournement de situation près. Pas de panique, du jeu, rien que du jeu. Si son coup droit est déjà décortiqué par la presse du monde entier, Boisson a montré qu'elle avait tout un attirail à disposition à l'image de ce revers croisé parfait pour sauver une balle de 7 dans la première manche. Et quand ce n'est pas son jeu tout en variation qui parlait, le mental prenait le relais. Il fallait avoir du plomb dans la tête pour accepter d'avoir laissé passer 3 chances de prendre le 7 au bout d'un jeu interminable de 14 minutes, juste avant de basculer sur un tie-break. Il en fallait aussi pour ne pas prendre la tempête en étant mené 3-0 dans la deuxième manche, coller un 6-0 sidérant dans la foulée. L'orage était passé, c'est Andreeva qui s'est retrouvée en pleine tornade, submergée par ses émotions. Le tourbillon Boisson ne fait lui que commencer. Les 690 000 euros, la 65e place mondiale sont déjà assurés, mais elle n'y prête pour le moment aucune attention ou importance. Il est très beau ce papier. Elle a un travail à terminer d'abord, tout un stade à faire chavirer. Gauff la fera tanguer sans aucun doute, mais elle en a déjà vu d'autres. Pour preuve, Roland-Garros 2024, elle l'a passé dans son canapé, opéré d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, mais elle s'est relevée, accrochée à son rêve. Serez-vous devant la demi de Boisson? Oui, 63%. Non, j'ai pas la télé, 38%. Joli le sondage. Joli les modos. Incroyable. C'est beau. On rêve d'une victoire face à Coco Gauff, bien sûr. On rêve d'une finale. Soyons fous. Rêvons d'une victoire. Mais déjà, ce qu'elle a fait, c'est inouï. Bravo en vrai pour ça, c'est magnifique. Bon, je pourrais vous lire d'autres trucs. Je pourrais vous parler de Djokovic qui est toujours là. Le GOAT. Mais les amis, j'ai une console. Allez chercher une Switch 2. Je vais la chercher IRL dans Paris. Voilà. Après, il faut que je réussisse à la brancher. Et pour essayer de vous faire un petit stream cet après-midi, petit stream ce soir. Quoi. Voilà, je vais essayer de vous faire ça. Voilà. Comment ça, on ne te livre pas à domicile? Non, je me déplace. J'aurais pu, en fait, je sais pas pourquoi je fais ça. Je vais la chercher, quoi. Voilà. Et on fera peut-être un stream unboxing. C'est-à-dire que je me mettrai peut-être dans la boîte. T'as pas 80 ans, tu sais brancher une Switch. Ah non, mais c'est l'acquisition de la Switch par le PC qui est un peu compliqué. Pour vous mettre la Switch dans OBS. Ah, mais oui. Voilà. Bon, après, normalement, le PC il est équipé. J'ai une carte d'acquis dedans. Normalement, c'est direct sans passer par carte d'acquisition extérieure. On devrait le faire, mais bon, il y a peut-être des petits réglages, quoi. Et ouais, pour l'ingénieur. Putain, je suis crevé, j'ai pas assez dormi. Merci pour ce matin. On va chercher la, le truc. Ah, je voulais voir si ça marchait ou pas. Non, j'ai vu ma tête et j'ai vu que j'avais vraiment une tête bizarre. Je me dis, tiens, je vais freeze pour voir si les gens pensent que ça a freeze la cam. Ah, les pixels bougeaient. Ah oui, le fond. Ah, je... Est-ce que Joe est en live? Ce serait génial parce que Joe, je crois qu'il est sur le. Ah, Joe, il est pas en live. Joe, il va streamer. Il va streamer la. Il danse dans 15 minutes. Bah oui, oh, je l'aurais raid, moi. Il va streamer la Switch 2. Ah, zut, bon. J'ai plein d'amis sur Mario Kart World. Ah, tout le monde est sur Mario Kart World. Ok, d'accord. Incroyable. En fait, c'est pas une revue de presse que j'aurais dû faire, c'est ça. Ah là 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 là. Tous les poteaux sont dessus déjà. J'arrive après la guerre, moi. I want to break free. I want to break free. I want to break free. Alors, qui est en live? Oh no. Ah, là, là. Want to break free. Want to break free. I want to break free. Me. I want to break free. Y'a Joe? Quoi, comment ça y est? Non, je viens de voir qu'il était pas en live. Attends, ça y est? Il est en live. Un instant. Ok, ça devait être dans 15 minutes, c'est parti. Ok. On est sur un écran d'attente. On est sur l'écran d'attente, mais là, c'est son live. Ok. Ok. Donc, soyez patients. Mais celui qu'on va voir. Ok. Joe Coco, mon ami. Hop, qui est en live, voilà. C'est tout. Il vient de lancer. Il a son écran d'attente. Il arrive dans un instant. Ok, c'est parti. Ça lance le raid. Merci pour ce matin. Merci pour la revue de presse. Vous avez vu, je fais des efforts hein, sur l'actu. Hein. C'est pour vous. Son écran d'attente, c'est mignon. C'est plein de photos que Joe il a pris parce qu'il est passionné de photos, notamment de plein de créateurs et de créatrices de contenu. Il a un bel écran d'attente. Et on se retrouve, je sais pas, cet après-midi, ce soir, si j'ai réussi à brancher cette Switch 2. Ok. À tout de suite les beaux gosses. Merci pour ce matin. Ciao ciao. I want to break free. 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 La, 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 la. Excusez-moi.